Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir, Salson, avec nous Ibrahima et Alexandre et Samba qui va vite arriver dans la cabine. Ça fait 3 semaines, vous nous avez manqué, hein, nos chers auditeurs et auditrices, vous nous avez manqué. Mais on va rattraper tout ce temps-là et on va parler d'actu. On va commencer avec l'équipe de France, avec Kylian Mbappé qui n'a pas été sélectionné. Kylian Mbappé au cœur de la polémique, hein, ces derniers temps, on a pu le voir, avec des performances très moyennes, même médiocres, on pourrait dire. On va revenir sur tout ça, hein, avec l'équipe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions, avec Brest qui sont en pétard, si on peut le dire. Quatrième de la Ligue des Champions devant Manchester City qui se sont fait étrier par le Sporting et Amorim et Gyökeres. On va revenir aussi sur la Liga avec Barça qui sont premiers de la Liga mais qui ont perdu quelques points dernièrement et qui laissent le Real peut-être revenir à 3 points. Et on va bien évidemment aussi parler du Ballon d'Or, il y aura une petite minute là-dessus pour savoir réellement, en tout cas, quels sont les avis de nos chroniqueurs. Avec nous, Salson, comment ça va, Salson ?
Bah, ça va, hein. Nickel, et toi ?
Ça va, nickel ?
Nickel, de
retour. Même après ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, ça va ?
Bon, j'ai un peu oublié, je les ai mis un peu de côté en ce moment, là, c'est un peu difficile.
Et toi, Ibrahima, comment ça va ?
Salut, ça va ?
Ouais, ça va, ça fait un petit moment. Hein.
Ouais, c'est vrai, ça fait 3 semaines. Bon, on n'est pas dans la meilleure période, là, en tout cas en ce qui me concerne, la trêve internationale, mais ça va, on aura quand même des choses à dire.
On aura des choses à dire avec l'équipe de France, là, surtout. Pendant la trêve, il s'est passé quand même des choses, il y a des choses à dire, en tout cas. Et on a à débattre, je pense, ce soir. Alexandre, comment ça va ?
Ça va, tranquille. Comme Ibrahima, trêve internationale, bon, c'est toujours un peu compliqué, mais ça va, ça va.
T'as suivi quand même les matchs de l'équipe de France ?
Ouais, j'ai suivi. Et le match de la Côte d'Ivoire aussi, c'est compliqué. C'est compliqué, la Côte d'Ivoire, en ce moment, mais ça va, ça va.
La Côte d'Ivoire, c'est compliqué. On va aussi faire un petit point, bah, pourquoi pas sur la CAN aussi, hein, sur les qualifications de la CAN. C'est un peu tellement logique, on va dire, qu'on n'a pas cité dans le sommaire. Salson, un mot très rapide, toi, sur la CAN, t'as suivi un peu de près, de loin ?
Ouais, j'ai suivi un peu les résultats. Le Mali qui est qualifié, qualifié. Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué en ce moment. Content pour les Comores qui se requalifient encore aussi. Une très belle équipe qui a fait une très belle CAN dernièrement. Sinon là c'est pas encore terminé, je crois qu'il y a encore des matchs ce soir encore en direct.
Il y a encore des matchs. On a vu le Nigeria qui ont pris deux buts en deux minutes face au Rwanda et qui ont perdu leur dernier match à domicile.
La seule équipe qui m'a choqué, qui n'a pas été qualifiée, c'est le Ghana. Après, ça fait plus de 20 ans que...
En plus, Koudous qui rate un pénalty à la 95e.
Ouais, donc voilà, c'est un coup dur pour les Ghanéens.
Ils ont tout perdu sur ça. Même leur invincibilité qu'ils avaient depuis 2008 à domicile, ils l'ont perdu. Et ils ont tout perdu. Hein. Sur cette année 2024, c'est 14 matchs, 7 matchs nuls et 2 défaites. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ibrahima ?
Non, mais cette équipe-là, bah, ça fait un moment qu'elle est un peu en perdition. On avait déjà vu les prémices de cette chute à la dernière CAN. En Côte d'Ivoire, après, c'est vrai que sincèrement, j'aurais pas misé sur une non-qualification quand même du Ghana. Surtout quand on voit les équipes, des équipes comme le Soudan qui réussissent à se qualifier, ce genre de choses. Mais à un moment donné aussi, on récolte ce que l'on sait. Mais je sais qu'il y a pas mal de problèmes de gestion, notamment au niveau de la fédération au Ghana. Et si ça peut permettre à cette équipe-là de pouvoir se reconcentrer et repartir sur de nouvelles bases en enlevant certains joueurs, je pense notamment au frère Ayou par exemple. Si ça peut leur permettre pouvoir se remettre en question, tant mieux pour le football ghanéen, j'ai envie de dire.
Il y a même des rumeurs qui disent qu'il y a certains joueurs qui ont payé pour venir en sélection. Ouais, on peut penser aussi à ces joueurs-là, comme André Ayew et Jordan Ayew.
Ouais, mais
on
te rassure, c'est pas qu'au Ghana, ça.
Ah, c'est des rumeurs qu'on
entend. Oui,
rumeurs qu'on entend
un peu partout. Oui, mais
ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Hein, mais...
Bien évidemment, mais là, on l'a entendu précisément dans une équipe qui va mal, en fait, c'est ça. Qui ne se sont pas qualifiés, qui ont fait leur pire année civile. depuis très longtemps, ils n'avaient pas fait une année civile comme ça. Quand même, je redonne la liste de la poule. Il y avait Angola, Soudan, Niger. Soudan, Niger. Sans manquer de respect à ces trois équipes-là, je pense que le Ghana est quand même largement au-dessus.
Bah oui, sur le papier, c'est sûr, et même historiquement, mais je pense que c'est là où vous vous trompez. C'est qu'aller gagner un match au Soudan ou au Niger, par exemple, je suis désolé, mais rien qu'à l'écran, déjà on voit que c'est vraiment pas simple.
Non, c'est vrai, c'est pas simple. C'est physique, avec la chaleur, l'humidité.
La Côte d'Ivoire n'arrête pas de perdre en Zambie, par exemple. C'est vraiment pas simple d'aller en pleine saison se retrouver dans des longs déplacements comme ça, sur des terrains pas toujours. De très bonne qualité, c'est vraiment pas simple de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Je pense que les gens sous-estiment vraiment à quel point ça peut être difficile pour des équipes qui, malgré tout le talent que peut comporter les effectifs, ça peut être très compliqué de se qualifier. Donc, c'est pas une excuse que je trouve pour le Ghana.
Oui, mais... parce qu'ils ont une très belle équipe quand même. Et même à domicile, ils
devraient... Elle a été meilleure par le passé quand même. Là, c'est que ça reste quand même une bonne équipe africaine.
Ils ont quand même... Oui, oui, peut-être pas avant, mais maintenant aussi, ils ont une très belle équipe avec des jeunes qui arrivent... d'un peu partout, et c'est une bonne équipe dans l'ensemble. Il y a Nouama, Souleymana, Koudous, André Ayou, même si André Ayou est un peu, on va dire, sur la fin, ça reste quand même un bon joueur. Il reste quand même, voilà. Et oui, toi, qu'est-ce que t'en penses, Alexandre ?
Non, moi, je suis d'accord avec Ibrahima, c'est que, c'est pas un problème qui arrive qu'au Ghana, ce genre de polémique. Il y a un problème de gestion dans la plupart des fédérations africaines, à commencer par le Cameroun par exemple, où c'est n'importe quoi. J'ai quand même envie de leur... Même si c'est pas simple, je suis d'accord, d'aller gagner au Niger, d'aller gagner au Soudan, etc. Surtout en pleine saison, quand tu as des joueurs qui jouent en Europe, qui reviennent, etc. Mais il faut quand même... c'est quand même une grosse contre-performance. Enfin, je veux dire, personne ici aurait misé sur la non-qualification du Ghana, surtout quand t'as cité le groupe. C'est quand même n'importe quoi. En plus, je trouve que, mine de rien, ça va faire un absent quand même de taille, je trouve, pour la prochaine CAN, le fait de ne pas avoir le Ghana. C'est toujours une sélection qui est un jeu attractif, qui est agréable à voir jouer, je trouve. Donc voilà, je trouve ça un peu décevant. Après, voilà, il y a pire, hein, mais je trouve ça décevant.
On les retrouvera peut-être, j'espère en tout cas. On peut penser au Sénégal aussi, qui n'était pas qualifié à la CAN, hein, c'était en 2015, mais après on les a vus revenir de façon magistrale et prendre leur première CAN. Et on espère que pour les Black Stars, ça sera de même. Comment ça va, Samba ?
Ça va et toi ?
Ça va, super. Qu'est-ce que t'en penses ? On faisait un petit récap sur la CAN, un peu... le Ghana non qualifié, la Côte d'Ivoire qui enchaîne un peu, on va dire, les défaites. En tout cas, là, il reste sur deux défaites. On dit que c'est pas facile de jouer dans des pays tels la Zambie, le Niger, l'Angola. Qu'est-ce que t'en penses, Samba ?
On peut s'apercevoir que maintenant, les petites équipes, maintenant, le niveau il a augmenté. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait un certain écart entre les grosses nations et les petites équipes. Et voilà.
Et maintenant, ça se comble, en tout cas avec le physique. On va se faire une petite virgule avant d'enchaîner avec l'équipe de France. L'équipe de France, Kylian Mbappé, qui a refusé ou qui n'est pas venu, qui n'a pas été sélectionné, en tout cas du moins, par Didier Deschamps, qui n'a pas voulu donner plus d'explications que ça. Quels sont vos avis ? Parce que franchement, le capitaine qui déjà en premier lieu refuse de venir, dit qu'il est blessé, et ensuite il vient, et ensuite là, il n'est pas sélectionné pour deux matchs, on va dire, capitaux, un peu pour la Ligue des Nations. En tout cas, c'était deux matchs à gagner, même si les Bleus sont quand même qualifiés et sont premiers de leur poule, ils auront pu passer à travers, parce qu'en allant gagner en Italie, ils sont quand même compliqués la tâche. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre ?
Là, si on commence sur le cas Kylian Mbappé, chaque semaine, à chaque fois, il y a une polémique sur lui et on en parle dans l'émission. À chaque fois, moi, je suis en train de le défoncer. Mais là, il commence à me faire de la peine, hein, je ne vais pas vous mentir. Il commence vraiment à me faire de la peine. Et moi, j'ai deux lectures sur sa non-convocation. La première, elle va peut-être faire polémique, mais c'est que, comme par hasard, les deux fois, on jouait contre un État. Enfin, on jouait contre Israël, quoi. Donc, ça porte forcément à discussion. Et la deuxième, c'est que déjà, d'une part, il est pas bon au Real Madrid. Et d'autre part, il agace beaucoup de ses coéquipiers. il agace beaucoup de ses coéquipiers. Il y a aussi cette histoire du capitaine avec Griezmann et la retraite anticipée de Griezmann.
Qui d'ailleurs, Griezmann a annoncé qu'il ne reviendra pas, hein, que son choix était définitif.
Oui, il a annoncé.
Parce qu'il
ça.
Y avait des petites rumeurs.
Bon, après, on ne sait jamais, ça va très vite dans le foot, hein, il suffit de. Enfin, voilà. Mais je pense, il y a des bruits qui courent, que, comme quoi ce serait une rupture un peu entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé, comme quoi il ne reviendrait pas dans les prochains rassemblements. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est possible parce qu'on sait que Didier Deschamps il a un fort caractère, que quand il veut écarter un joueur il l'écarte.
Non, Kylian Mbappé il pourra jamais l'écarter, c'est pas possible.
Force est de constater que
il peut le dire carrément, et j'ai envie de te dire que si Didier Deschamps est encore là, c'est en grande partie grâce à Kylian Mbappé ces dernières années.
C'est possible.
Il était décrié pas mal, mais ça gagnait les matchs et il
Après,
faisait ses performances.
Ça peut être aussi Mbappé de lui-même qui a un fort ego et qui, lui, ne veut pas revenir tant que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France.
Non, je pense pas. Moi, franchement, je pense qu'on n'en est absolument pas arrivé là.
Bah, il y a des rumeurs.
Oui, mais...
Il y a des rumeurs comme quoi...
Non, mais c'est des gens qui veulent vendre du papier. Pour moi, en tout cas, ce sont des gens qui veulent vendre du papier.
En tout cas, il y a un malaise quand même. Il y a un malaise entre Mbappé, la sélection, le fait que... Parce que moi, je trouve qu'on en a un peu parlé, mais je trouve que, je vous assure, on n'en a pas fait assez du bruit. Le fait que il fasse vraiment passer Didier Deschamps pour un abruti le rassemblement d'avant. Il dit oui, je suis blessé. Du coup, Didier Deschamps, il annonce à la presse qu'il est blessé. Ensuite, deux jours après, il joue 20 minutes contre...
70 minutes.
70 minutes, pardon, avec le Real Madrid. Mmh. Ensuite, il joue la Ligue des Champions contre Lille avec le Real Madrid. Du coup, Deschamps, il est obligé de désamorcer le truc. Ensuite, soi-disant, il va en Suède. Après, il y a toute l'affaire de Suède qui en découle. Enfin, je veux dire, il y a quand même... il fait passer Didier Deschamps pour un abruti, quoi, aux yeux de tout le monde. Et donc, du coup, ça, je pense que lui-même ne l'a pas apprécié. C'est pour ça qu'il ne l'a pas convoqué, en plus de ses performances sportives. Il ne l'a pas convoqué au prochain rassemblement. Donc, du coup, je pense qu'il y a un malaise.
Je ne pense pas que il a déjà été pire. Kylian Mbappé a déjà fait des on peut dire, des périodes un peu plus pire que ça, et en tout cas dans le sens où il marquait pas, il était pas bon non plus, et il l'appelait quand même. En fait, je pense que la question ne se pose même pas. En fait, Kylian Mbappé, tu vois, même Didier Deschamps le fait comprendre assez clairement, il regardera jamais les performances de Kylian Mbappé, qu'il soit dans le mal total, qu'il marque plus aucun but, qu'il fasse plus aucune passe décisive, qu'il ne joue même plus avec le Real. Je pense que Didier Deschamps continuera à l'appeler. Ça fait partie de l'un de ses cadres, et lui-même, quand il lui a remis le brassard, il a dit c'est celui qui va faire la passation entre la nouvelle génération et l'ancienne.
Ouais, mais là, je pense que c'était
comme ça.
Je pense que c'était à ce niveau-là l'erreur.
Ah oui,
c'était plus Griezmann qui était légitime parce qu'il avait plus entre guillemets plus d'expérience, plus de sélection, et il avait plus de vécu que Kylian Mbappé. Parce que après, ce qui revient, c'est que Didier Deschamps, il a laissé les clés de la sélection à Kylian Mbappé, comme le PSG l'ont fait précédemment.
C'est vrai que ça sent pas bon. Toi, Ibrahima, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, par rapport à Mbappé, sincèrement, j'ai rien compris par rapport à sa dernière non-sélection. La précédente, bon, comme Alex l'a dit, apparemment il était blessé, mais il n'était pas. Bref, on n'a rien compris. Mais là, pour le coup, je sais pas quelles sont les raisons concrètes, mais si j'étais Kylian Mbappé, moi personnellement, je me poserais des questions, parce que le match d'hier soir, c'était pas dégueu, franchement.
Ça fait longtemps que j'avais pas vu la France bien jouer comme ça. Ça jouait bien au ballon.
Ça jouait plutôt bien.
C'est fluide, un peu moins quand Thuram avait le ballon, mais.
Non, ça jouait bien hier. Donc après, moi, je pense qu'il est dans le mal, en fait, hein, tout simplement. Et je pense que ne pas l'appeler en sélection, je pense que ça, c'est peut-être un accord qu'ils ont peut-être entre les deux aussi. Je pense que ça lui fait du bien, moi, de pas venir en sélection, parce que il est.
Tu penses que là, ça lui a fait du bien? Tu penses là le deuxième rassemblement, donc celui-ci, le fait qu'il ne soit pas convoqué en sélection, moi, je suis pas sûr. Je pense que ça peut l'enfoncer encore plus.
Non, moi, je pense que si, parce qu'il va revenir, il va faire des performances. Imaginons qu'il reste sur sa lancée actuellement qu'il a au Real Madrid de performances très moyennes. Les médias vont encore parler, ça va encore plus l'enfoncer. Donc, il va être enfoncé en club, en sélection.
Honnêtement,
moi, je pense qu'il le plus de temps qu'il peut prendre en solo, qu'il le prenne et qu'il se remette.
Moi, je pense honnêtement, sa non-convocation.
Qu'il sorte la tête de l'eau, parce que là, pour l'instant, ça va pas du tout.
Moi, je pense que sa non-convocation, même pas genre comme si c'était Colomoini qui n'avait pas été sélectionné. Non, on parle de Kylian Mbappé qui est quand même capitaine. Je pense que s'il n'a pas été sélectionné, ils se sont arrangés. Il va jamais lui dire je vais pas te prendre parce que je ne te prends pas parce que tu n'es pas bon. Non.
Non, mais c'est pas.
Tu vois, c'est. Non, dans le sens où. Kylian Mbappé, je suis sûr que si Kylian Mbappé aurait vraiment voulu être là, il aurait dit ça va me faire du bien de venir et j'ai envie d'être là. Je pense que Deschamps l'aurait appelé. Moi, j'en suis persuadé. Salé, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je suis du même avec toi. Je pense que c'est un arrangement entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Je pense que Mbappé, il a besoin de recul parce qu'il est dans une mauvaise passe, une mauvaise période. Après, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de lui comme quoi il sera en dépression, etc. Et je pense que le fait de couper un peu avec l'accélération et d'essayer de se concentrer sur le Real Madrid, moi je pense que c'est un arrangement. Moi franchement, c'est mon avis, hein, mais je pense pas que ce soit Didier Deschamps qui n'ait pas voulu le prendre. Et en plus, Didier Deschamps, lors des interviews, des conférences de presse, il le défend, il n'est pas contre lui. Et je pense vraiment que c'est un arrangement entre eux. Après, comme Alexandre l'a dit, peut-être c'est par rapport... Il y a eu lors des deux derniers rassemblements, il y a eu une équipe contre laquelle ils ont joué. Peut-être c'est pour éviter ça, mais je pense pas. Après, on le verra peut-être sur le troisième rassemblement.
Moi, je pense que c'est possible parce que dans le sens où je dis ça. Bon, après, je prends des pincettes, hein, vraiment. Je sais que là, je vais me faire tirer dessus. C'est possible, mais je vous le dis. En tout cas, quand il y a eu le match face à l'Israël, Mbappé n'a fait aucun poste. Au premier rassemblement, Mbappé a fait un poste, mais juste de l'équipe de France où on ne voyait même pas contre qui il jouait. Et il a mis allez les bleus, un truc comme ça. Deuxième fois, il n'a pas mis de poste contre l'Israël. Il n'a même pas mis de poste. Et là, quand ils ont joué contre l'Italie, les deux fois, il a mis allez les bleus et il met France-Italie et on voit que c'est France-Italie. Vous voyez ? Juste ça, moi, je me dis coïncidence.
C'est peut-être vrai, mais après, moi, je pense qu'il faudra attendre le troisième rassemblement pour voir si c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Parce que si.
Bah là, il n'y aura plus d'Israël.
Mais après, mais c'est ouais, ça. Mais...
pour ça qu'on
là, on peut pas parler à sa place.
Oui, c'est ça, c'est sûr. Parce que. Non, on suppose.
Lui-même sait ce qu'il a fait. Lui-même sait ses intentions.
Non, on suppose seulement.
Mais voilà. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu du mal avec ça. Enfin, les autres, ils jouent et lui, il joue pas. Pourquoi, en fait
Bah justement, c'est ça le problème. C'est pourquoi
Bah, soit on annule le match, soit tout le monde joue, en fait.
Non, lui, il a un problème avec ça. Tu vois, après, Mbappé a. Veut être maître de son image et ça depuis très longtemps. On l'a vu au Paris Saint-Germain, on l'a vu même arriver au Real, négocier en premier lieu, on peut dire, ses droits d'image. Il veut pas être partout, il veut pas être à des endroits où lui il ne veut pas. Il veut vraiment lui-même choisir partout où est-ce qu'il va. C'est pour ça qu'il négocie
au final,
autant.
Ça a plus des services, hein, parce que son image, elle a jamais été pire que maintenant. Donc...
C'est possible.
Hein. Il veut être maître de son image et il va en Suède le jour où l'équipe joue, l'équipe de France joue.
Ouais.
C'est contradictoire, parce que, je sais pas, moi je trouve ça bizarre qu'il... Si c'est la raison que vous venez d'évoquer, personnellement...
On fait que des suppositions.
Oui, c'est sûr, on n'est pas dans sa tête, hein, après c'est sûr, ça se trouve ça n'a rien à voir, ou c'est peut-être que c'est ça, on sait pas, mais je trouve ça bizarre quand même.
On va enchaîner hein, avec la France qui ne parvient pas à se défaire de cette équipe israélienne au Stade de France, hein, avec la pire audience jamais enregistrée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelques petits mots là-dessus, rapide. 0-0, match... neutre un peu.
Ouais, ouais. T'es catastrophique.
Très catastrophique.
Moi, j'ai pas aimé, je fais une petite aparté. Je trouve ça bizarre le traitement de TF1 sur le match, comme si c'était un match normal, comme si. En fait, ils ont retiré le contexte, ils ont pas mentionné une seule fois le contexte. Ça, je trouve qu'en termes journalistiquement parlant, je trouve que c'est une erreur de faire ça. Et voilà, le contexte était vraiment très particulier. C'est la pire affluence, tu l'as dit, depuis.
Qui n'a jamais été enregistré au Stade de France.
Un match, un stade 80 000 places, il y a 13 000 personnes. Je trouve ça. En plus, il y a eu des choses qui sont passées en tribune. C'était vraiment un match particulier et c'est pour ça que j'étais d'autant plus surpris et déçu du score et de l'attitude même des joueurs de l'équipe de France. Après, si on parle vraiment juste footballistiquement parlant, je trouve que l'équipe israélienne a bien défendu. Et a été surprenante par séquence, techniquement parlant, je trouve. Mais globalement, l'échec, il est français, avec un milieu de terrain, Kamavinga, sans idée. Devant, c'était qui ? Il avait mis Barcola, qui a fait un mauvais match. Ouais. Olise aussi, malheureusement, il a pas su saisir sa chance.
Olise, il arrive pas. Hein. En équipe de France, il n'y arrive
compliqué.
Pas.
Hein. Premier rassemblement, défensivement, deuxième. Ils ont pas trop été tant inquiétés que ça. Donc au final, voilà. Si on parle juste footballistiquement parlant, c'est un échec cuisant, c'était une purge. Et c'est pour ça que j'attendais pas autant du match contre l'Italie, et on en parlera tout à l'heure, mais j'étais agréablement surpris.
Samba ?
Franchement, par rapport au match, c'est très, très ennuyant. Après, on sait tous par rapport au contexte. Après, j'ai personnellement, pour avoir regardé le match, j'avais l'impression en fait... Ils n'avaient pas d'envie.
Ok, merci Samba. Et du coup, Voilà, on peut parler aussi du coup tactique de Dédé hein, qui porte ses fruits et donne un renouveau. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette équipe de France jouer aussi bien. Samba, la France qui se sont imposés à San Siro 3 buts à 1 avec un doublé de Rabiot et un but contre son camp mais provoqué par Lucas Digne. Sur coup franc, qu'est-ce que t'en penses toi de la performance des Bleus et de
franchement, une très belle performance collective, pardon. On voit que quand ça attaque et ça défend ensemble, on voit une légère différence. Après, c'est pas pour vraiment, c'est pas pour incriminer Mbappé, mais on voit que quand ça joue ensemble, ça crée de belles choses. Après, franchement, le coup franc de Lucas Digne, je savais pas qu'il savait tirer des coups francs.
Il avait dit qu'il s'est entraîné à ce niveau-là.
Bah, on peut dire que entre guillemets, pour le moment, on a un tireur de coups francs. Après, à voir par la suite. Hein.
Le problème, c'est quand il va revenir, il va vouloir tirer tous les coups francs, donc c'est compliqué. Bah, Mbappé.
Bah, franchement, Mbappé,
il a jamais mis
de coups francs.
Non, mais il a limite du mal à lever la balle. Moi, ça m'inquiète, ça, personnellement. Quand je vois que certains le comparent. Des joueurs comme Neymar, etc., ils n'arrivent même pas à lever la balle sur un coup franc.
Honnêtement, il a tout à fait raison. Après, franchement, je sais pas. Honnêtement, c'est pas pour le critiquer. Hein. Mais je sais pas à quel moment il s'est décidé à être le tireur de coup franc.
Parce qu'il voyait Neymar. Il voyait Neymar le
serre. C'est pas pareil, Neymar, on voit.
Bah ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais il veut faire comme Neymar, mais malheureusement.
On revient à ce que j'ai dit auparavant. C'est quand on lui laisse les clés de la maison, il se permet tout.
On va juste continuer sans parler de Kix, de Bondy. Salson, toi, dis-moi, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la performance des Bleus
Très beau match. Il y a eu des belles choses, des belles phases de jeu. Il y a des performances individuelles que j'ai bien aimées, notamment Lucas Digne. On va lui donner le but quand même, parce que le coup franc, il est très très bien tiré, même s'il retouche le gardien, je crois, ou a fait barre en 30.
Touche le gardien, c'est pour ça qu'elle a accordé ça.
Franchement, je lui donne Lucas Digne, parce que franchement, elle est super bien tirée. Franchement, il y a eu des belles choses. Et derrière, notamment aussi, avec Konaté qui prend le brassard. On a pu le voir sous cet angle. Et ça fait
c'est solide.
C'était très solide avec Saliba, très solide. Et moi, je ne suis pas étonné de façon de grands joueurs de première ligue, de grands défenseurs. Franchement, il y a eu des belles choses. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis voilà.
Merci Salé. Ibrahima,
moi, j'ai bien aimé la performance de Manu Koné, par exemple.
C'est lui que j'allais citer.
Je l'ai trouvé très bon face à l'Italie. Ouais. Franchement, il garde bien le ballon, même techniquement, c'est juste. Il joue dans les temps et il joue vers l'avant surtout.
Il provoque
et ça fait plaisir de voir un milieu de terrain comme ça. Surtout que Kamavinga n'avait pas fait un très bon match face à Israël. Donc, voir que Manu Koné prend un petit peu entre guillemets son rôle dans le jeu, ça fait plaisir. Après, moi, j'ai bien aimé la performance de Rabiot aussi. Il a mis un doublé. Je savais pas qu'il était aussi bon sur coup de pied arrêté. Et puis après, l'Italie, j'ai quand même été assez déçu parce que lors du match aller où le score avait été similaire, mais dans le sens inverse, il y avait eu 3-1 pour l'Italie. Je les avais trouvés très bons. 3-1 pour l'Italie. Je les avais trouvés très bons. Et j'ai pas compris pourquoi un joueur comme Moïse Kean était rentré aussi tard aussi. Mais bon.
Moïse Kean qui est en pleine bourre avec la Fiorentina.
Ouais, avec la Fiorentina qui revient plutôt titulaire. Bien. Je pensais qu'il allait être titulaire, il l'a pas été. Ouais. Mais ouais, non, sinon, cette équipe d'Italie, ça fait un moment quand même, là, où ça fait... Je crois, il me semble qu'elle a loupé... Non, elle était là, la Coupe du Monde 2022, mais c'est les deux précédentes qu'elle a...
Elle a loupé la Coupe du Monde 2022.
Oui, elle a loupé 2022.
C'est juste qu'ils ont gagné l'Euro 2021.
Ouais, ils ont gagné l'Euro, c'était un peu bizarre, mais sinon, ça fait pas mal de temps que cette équipe-là, elle est pas...
Après, ils ont une équipe en reconstruction, après...
Ouais, mais ça fait 15 ans, là, bientôt,
ouais, reconstruction. Après, mis à part...
ils ont gagné l'Euro, quand même.
Ouais, après l'Euro, ouais.
Ouais, mais après, tu ne qualifies pas à la Coupe du Monde, c'est ce que j'ai pas compris.
Bien sûr, ça, c'est un flop.
Deux fois de suite.
Mais là par rapport à l'Euro et les phases de qualification aux autres Coupes du Monde, on voit bien qu'il y a... C'est pas pour défendre l'Italie, hein, mais on voit bien qu'il y a un renouveau, il y a beaucoup de nouveaux joueurs.
Ouais, il y a des joueurs comme Retegui, c'est pas mauvais.
Tonali.
Après, Monchi,
Calafiori,
il n'était pas là aussi.
Cambiasso.
Même Dimarco, qui est un peu plus vieux, mais il est bon aussi. Mais collectivement, je trouve que ça reste quand même un peu faible. Mais...
En fait, ils n'ont pas de véritable attaquant. Enfin...
Ouais, Chiesa est blessé, il me semble.
Chiesa, il est blessé.
Il manquait, même au match aller, il manquait l'attaquant. J'oublie comment il s'appelle.
Retegui.
Sabaka.
Ouais, Scamacca.
Ouais,
même s'il n'est pas bon avec l'Italie. Hein. Il n'a pas été bon avec l'Italie. Hein. Même la dernière. Non, il n'a pas été bon du tout. Il n'arrivait pas à marquer, pas de performance, rien. même durant ces derniers Euros, il a été muet, vraiment. Du coup, non, Samaka n'était pas bon avec l'Italie, mais quand même, ça reste quand même un grand joueur et qui manque quand même à cette sélection italienne.
Après, si, juste pour revenir sur l'équipe de France, il y a un perdant, moi je trouve, enfin, surtout par rapport au match contre l'Italie, il y a un perdant, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, parce que franchement, là, moi, là, tu parlais de Manu Koné et Rabiot, je vois pas pourquoi Tchouaméni viendrait prendre la place d'un des deux au prochain rassemblement. Ouais, surtout.
T'as une hiérarchie aussi dans l'équipe de France.
Ouais, tu sais que.
Je suis d'accord avec toi.
Surtout avec Deschamps.
C'est ça le problème.
Je suis d'accord avec toi, mais avec Deschamps, ça va être compliqué de faire ce que tu penses, ce que tu viens de dire.
Et lui, il fera passer Fofana avant tout le monde, de toute façon. Donc,
Ouais, bah Fofana, crois-moi qu'il sera devant Koné, hein, dans la logique de Deschamps. Donc, c'est compliqué.
Mais attention, dommage. Parce que Koné est jeune et il monte en puissance.
Il a un bel avenir.
C'est bien, faut pas le cramer. Faut le laisser un peu faire des bouts de match, jouer quelques matchs importants. Il prend de la confiance, il prend de l'expérience. Lui-même, s'il explose avec son club, parce que je pense que l'AS Roma, en vue des performances, ne pourront pas le tenir encore très longtemps. Et franchement.
Il vient à peine d'arriver.
Mais quand même, il vient à peine d'arriver, mais en une, deux saisons, il peut avoir des équipes qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent le titre dans leur championnat, et il peut avoir des envies d'ailleurs, ça peut aller très très vite.
Et juste, il y a un joueur que t'aimes bien, qui selon moi, s'il continue comme ça, parce que bon, c'est vrai que ça peut être un peu tôt, mais qui continue comme ça, devrait être incorporé au groupe, c'est Ryan Cherki, qui en plus avec les espoirs, là il a fait des bons matchs. Ouais. Franchement, je sais pas si vous avez vu l'action qu'il a fait là, sur la passe décisive, elle est incroyable. Et franchement, Ryan Cherki, c'est ce genre de joueur, pour moi, qui manque justement à l'équipe de France. Et
un grain de folie.
S'il est régulier, ce serait vraiment parfait.
Bon, je vais rajouter pour Ryan Cherki, je pense que c'est très très tôt, parce qu'il n'est pas encore mature, je trouve. Il n'est pas encore mature. Pour moi, c'est un crack, hein. Il n'y a rien à dire. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi sur ce plateau, mais pour moi, c'est un genre. Il est trop fort. Juste que je pense qu'il manque un peu de maturité et de sérieux pour atteindre l'équipe de France A.
C'est vrai que c'est un joueur que j'ai pas mal critiqué, j'avais pas mal de doutes vis-à-vis de ce joueur, mais ces derniers temps, enfin, il me surprend. J'ai toujours su qu'il avait une bonne qualité technique, mais je trouvais qu'il courait pas sur le terrain et je sais pas comment.
Parce qu'il a commencé tellement jeune.
On a des exemples, en Europe.
Mais c'est des ovnis, tu vas pas comparer Lamine Yamal par exemple. Ah. Cherki, il a commencé à 16 ans.
Ouais, je trouvais qu'il lui manquait plein de trucs, mais là, même avec Lyon, il fait.
Kamavinga, il a commencé très tôt aussi. 16 ans.
Après, c'est aussi une question d'entourage, tu vois.
Ah, mais il est à Madrid.
Bon choix.
Il est à Madrid.
Mais il a commencé à 16 ans.
Ouais, mais 16 ans s'entraîner avec Toni Kroos et 16 ans s'entraîner avec Kaké, c'est pas pareil.
Non, mais attends, 16 ans, il était à Rennes. 16 ans, il n'était pas au Real.
Non, il a 18. Quand il a 18, mais Cherki, il a 21 ans, là, il me semble.
Oui, voilà. Mais après, Kamavinga, on voit qu'il y a une maturité dans son jeu par rapport à Cherki.
Ouais, mais
après,
oui,
on ne compare pas. C'est pas le même style de joueur, mais on voit sur son processus au niveau de la carrière. On voit que.
Oui, mais Kamavinga, comme tu dis, la maturité qu'il a dans le jeu, il l'a acquis comment ? Au Real Madrid. Parce qu'en s'entraînant avec Toni Kroos, Modric, Valverde, ce genre de joueurs, à un moment donné, t'es obligé de te mettre au niveau à l'entraînement.
Non, je suis d'accord avec toi.
Cherki, il a été formé à Lyon, il est chez lui. Donc quand c'est comme ça, même s'il y a de la compétition et de l'adversité, on le voit, il y a des moments où il a été mis sur le banc, même par Pierre Sage, etc.
Même au loft.
Oui, même au loft. Même en espoir, au JO, il n'était pas forcément titulaire.
Ouais. Bon, il n'était même pas sélectionné, il est venu, il l'a sélectionné après qu'il y a eu une blessure.
Ah ouais.
Ouais, ça a vraiment été ça.
Ouais, donc,
maintenant, ça devient. Il n'a pas été capitaine, non. Mais en tout cas, il est l'un des leadership, il le dit, même à la mi-temps, j'ai remotivé les troupes, j'ai truqué. C'est un Cherki comme ça qu'on attend. Et franchement, ça fait du bien. Excusez-moi, mais le temps file, hein. on va poursuivre, on va se faire une petite pause avant de revenir avec la Ligue 1, Marseille qui n'y arrive plus au Vélodrome. Quel est le problème avec De Zerbi, le Paris Saint-Germain qui enchaîne en Ligue 1, mais qui ont du mal en Europe. On va revenir sur tout ça juste après la petite pause.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Bonsoir encore et si vous venez de nous rejoindre, il est 21h01. Et on va repartir avec la Ligue 1, comme on l'a dit. Brest, qui reste qui joue son rôle, on va dire, hein, qui arrive à jouer encore sur les deux tableaux, et pour l'instant qui est encore en lice et qui assure bientôt leur maintien, en tout cas qui sont bons, et Marseille qui n'y arrive plus à domicile. Marseille qui n'y arrive plus à domicile. Oui, Ibrahima ?
Non, c'était par rapport à Marseille. Personnellement, moi, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu, c'est le traitement qu'on a vis-à-vis de Zerbi. Je ne vais pas dire que c'est un entraîneur qu'on surcote, non, parce qu'à Brighton, il a quand même fait de bonnes choses. Mais depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, je suis désolé, mais il n'y a aucune empreinte tactique.
Mais il est là depuis 3 mois.
Quand même, je sais pas, moi. Pour l'instant, c'est purement des exploits individuels, l'Olympique de Marseille. Là. C'est parce que malgré tout, l'effectif n'est pas dégueulasse. Mais la première mi-temps face à Auxerre, je suis désolé, mais c'est honteuse.
T'as vu sa dernière déclaration
Oui, il dit même qu'il est prêt à partir. Ça
en dit long.
Je pense qu'il n'a pas ce qu'il attend de ses joueurs et il se rend compte que peut-être que l'effectif n'est pas au niveau de ses espérances. Mais j'ai un peu de mal à croire ça parce que je ne pense pas que l'effectif de Marseille actuel soit meilleur, soit si tant inférieur que celui de Brighton. La saison passée.
Il l'est quand même. Et c'est pas la même intensité, même les joueurs qui y jouent.
Ouais, mais aussi qu'il a sous-estimé la Ligue 1.
Non, mais t'as vu Deserbi, l'équipe qu'il avait et les pépites qu'il a renvoyées du côté de Brighton. On parle de McAllister, Caicedo, Mitoma. Franchement, de ce côté-là, tu peux pas me dire
que Marseille a que l'effectif de Marseille, là, il est mieux que la saison passée, déjà, je pense.
Oui, il est mieux que la saison passée.
Mais il n'est pas horrible. Il y a des joueurs comme Greenwood, Rabiot.
Bien évidemment. Mais même, je pense qu'il lui faut du temps.
Même Merlin, je suis désolé, il n'est pas mauvais.
Oui, mais qui est ça ?
Merlin, je ne trouve pas mauvais, moi, personnellement.
Il n'est pas mauvais.
Non, il n'est pas mauvais.
C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps face à Auxerre.
Non, mais il y avait 3-0. Ouais. Non, mais c'était tous nuls. Même Brassier, s'il pouvait sortir à la 15e.
C'est pas pour défendre, mais il revient de blessure.
Ouais. Même un joueur qu'on Rongier, moi je le trouve pas mauvais non plus, même s'il joue pas beaucoup, je comprends pas d'ailleurs pourquoi.
Franchement, ouais.
Le seul souci que j'ai, moi, c'est au niveau de l'attaquant. Wai, je le trouve vraiment pas bon.
Wai, c'est depuis la saison
dernière. C'est catastrophique.
Depuis qu'il a quitté Montpellier, je sais pas ce qu'il a.
C'est un mystère pour moi, les 25 millions
qu'on a surcoté. On
peut pas dire surcoté, vu que la saison qui te pond à Montpellier, on s'est tous basé sur ça. Et pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, il est trop.
Ouais, mais le contexte n'est pas pareil. Ouais, toi, tu mets des buts à Montpellier, tu c'est pas pareil. En fait, la pression.
Même à Lens, t'as la pression. Ouais.
Oui.
Après, oui, peut-être, il y a le contexte.
Lens aussi, il y a eu des matchs de Ligue des Champions. On a pu voir.
Il a essayé de s'illustrer quand même en Ligue des Champions.
Il a fait quelques bons matchs. Mais Marseille, c'est différent. Après, c'est pas pour dire que Marseille, c'est plus chaud qu'ailleurs ou pas ailleurs. Il y a plus d'attente.
Après, si Marseille, c'est plus chaud qu'ailleurs. Jouer à Marseille et jouer à Montpellier, c'est pas pareil.
Après, j'ai l'impression qu'on est plus sur la continuité.
Là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas comparable.
Mais ouais, moi, c'est avec l'attaquant que j'ai un problème. Mais sinon, l'effectif, je le trouve pas.
Attendez,
je
pense qu'avec les... Mais vous voyez pas un réel problème. Même là,
il peut faire mieux.
Non, mais excusez-moi de vous interrompre. Mais là, vous voyez pas un réel problème, honnêtement, avec Marseille. Qui, le dernier clean sheet de Marseille remonte quand même face à Montpellier. Mais Montpellier qui sont, j'ai envie de vous dire, la pire attaque du championnat, la pire attaque.
Ils ont gagné 5-0. Même la pire défense.
Oui, et la pire défense, la pire attaque, la pire défense. Sinon, avant ça, pratiquement tous les matchs, ils encaissent un but. Pratiquement tous les matchs, ils encaissent un but. C'est depuis le début de saison. Mais moi je vois un réel problème. Et pour moi, il n'y a que deux. D'ailleurs, c'est le seul match où ils n'ont pas encaissé de but. C'était face à Montpellier et face à Nice à domicile, le 14 septembre. C'est tout. Sinon, tout le reste, tous les autres matchs, toutes compétitions confondues, ils ont toujours encaissé au minimum un but, Marseille.
Bien sûr,
mais maintenant, attendez, oui, il y a un problème défensif, mais vous oubliez pas quelqu'un.
Si, Chancel Mbemba.
Chancel Mbemba, excusez-moi, mais pour moi, il doit être. Chancel Mbemba qui a été, selon moi, en tout cas, le meilleur défenseur l'année dernière côté marseillais. Et même de la Ligue 1, ça a été l'un des meilleurs défenseurs qui a été décisif aussi. Oui, c'est passé quelque chose.
Franchement, c'est
avant la gestion, parce que tu veux mettre au loft quelqu'un qu'il ne veut pas prolonger pour un tel montant que toi tu lui proposes. On est dans les négociations. Est-ce que tu peux mettre un joueur au loft ? Moi, je suis pas d'accord avec cette politique.
Bien sûr.
Cette politique ne me convient pas. Après, c'est normal que le joueur il soit pas content. Après, il doit quand même respecter ses employeurs, etc. Il y a pas de problème. Mais dans le sens où il ne veut pas prolonger, il a un contrat jusqu'à une telle date, ça dit pas que si tu ne prolonges pas, tu ne joueras pas l'année prochaine. Surtout si tes performances sont à la hauteur. Non, pour moi, le problème, déjà, il est là. Les dirigeants marseillais n'ont pas su mettre de l'eau dans leur vin pour faire jouer Chancel Mbemba. le respect n'a pas été, je pense, Ibrahima.
C'est sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dès lors où j'ai entendu Roberto De Zerbi dire qu'il allait, il comptait pas sur Chancel Mbemba, j'ai su que qu'il allait pas jouer de la saison. Donc pour moi, je l'ai déjà écarté et je pense qu'il partira en janvier. Après, maintenant, si on se base sur...
Non, je pense que maintenant qu'il est resté 6 mois au loft comme ça, il peut rester encore 6 mois pour signer gratuitement autre part.
Ouais, parce que tu pars 6 mois là... J'ai vu qu'il voulait partir en janvier, il y avait Montpellier qui était dessus apparemment, ou juste en prêt, ou... bon bref. Mais en tout cas...
Franchement, pour moi, il ne mérite pas Montpellier.
Ah non, il mérite mieux.
Il mérite beaucoup mieux.
Beaucoup mieux, c'est sûr, mais après, à un moment donné...
Bon, après, il a besoin de se relancer, 6 mois sans jouer, sans compétition.
Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, qu'on prenne Cornelius, Brassier, ou même quand il fait redescendre Kondogbia, il n'y en a pas un qui vaut Chancel Mbemba, ça c'est sûr. Après, il a l'air d'avoir choisi ses hommes et il va aller à la guerre avec. Hein. On voit ce que ça donne pour l'instant. La saison, elle n'est pas finie. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Chancel Mbemba, ça c'est clair.
Alexandre ?
Bah ouais, non, moi je suis pas d'accord avec toi. L'effectif de Marseille, moi j'en parlais la dernière fois, je le trouve vraiment très très limité. En latéral droit, il a mis Lirola. J'ai regardé la dernière composition, il a mis Lirola à droite. Il a mis Luis Enrique en 10. Dans Nil Mopé qui met pas un pied devant l'autre aussi, même si on parle d'Eliwayi qui est mauvais, mais Nil Mopé il est mauvais. Greenwood
en plus de son comportement,
en plus, oui, voilà. Et Greenwood, on en a fait beaucoup à juste titre, puisqu'il avait fait un bon début de saison. Greenwood, il avait fait des bonnes performances, mais finalement il est en train petit à petit de retomber dans ses travers.
Bah après, si t'es dans une équipe où autour ça ne suit pas, c'est difficile, c'est dur, on peut pas demander, même si c'est un joueur qui doit faire la différence, tu dois être accompagné pour faire cette différence. Je pense que un joueur tout seul ne peut rien faire,
mais pour moi il y a un manque de qualité. Franchement, il y a un manque de qualité.
Ça existe.
Non, ça n'existe pas. Il y a toujours des joueurs autour.
Oui, autour.
Il y a toujours des joueurs autour. Ils te font la différence dans des gros matchs où les autres n'y arrivent pas. Mais ils sont là quand même. Juste le fait qu'ils sont là, ça change. Mais quand tu joues dans une équipe, dans un effectif comme l'Olympique de Marseille, c'est très dur. Pour un joueur de la classe de Greenwood, c'est très très dur de faire de la magie.
Oui, après, je suis désolé, je joue pas. Enfin, toutes les équipes contre qui Marseille a perdu, Strasbourg n'a pas un meilleur effectif que Marseille. Je pense pas. Auxerre n'a pas du tout un meilleur effectif que Marseille, donc à un moment donné il faut arrêter. Pour le niveau qu'est la Ligue 1 aujourd'hui, ils se doivent de faire beaucoup mieux, mais vraiment mieux. Donc oui, c'est sûr qu'il a pas, c'est pas le Real Madrid l'Olympique de Marseille là, aujourd'hui, en termes d'effectifs, mais avec les joueurs qu'il y a, des joueurs comme Greenwood, Rabiot, Højbjerg, même je sais pas moi, Kondogbia, même s'il est un peu sur la pente descendante là, ils se doivent de faire beaucoup 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 mieux. On peut pas produire un tel football avec les joueurs qu'ils ont. C'est là où je trouve que c'est sûr que c'est pas l'effectif du siècle, mais ils doivent au moins terminer dans les trois premiers de Ligue 1. À part peut-être Monaco, je vois même, allez, peut-être même Lille. Lille collectivement, je les mettrais peut-être un peu au-dessus.
Nice, allez, pas.
Non, Nice c'est beaucoup trop irrégulier, mais dans le top Nice, 4 au moins.
Bah, c'est un peu comme Marseille.
Si Marseille termine,
moi ça me fait penser Nice Marseille, c'est un peu la même
chose.
Il
y a un peu plus de qualité côté Marseille, je pense.
Non, moi je pense côté Nice même il y a un peu plus de qualité, parce que Nice enchaîne sur les deux tableaux. Avec les Bourgogne, etc. Ils enchaînent sur les deux tableaux.
Ils
sont mauvais en Europa.
En Europa, ils sont très nuls. Hein.
Bon, très nuls, je dirais pas très nuls, mais.
Ils sont pour le niveau.
Ils sont pour le niveau.
Ferencváros, je crois.
Ils ont fait 2-2 contre 20 avec à 10 contre 11.
C'est miraculeux.
Oui, ils perdent contre Ferencváros. Contre la Lazio, c'est normal. Ils font un résultat quand même à domicile contre la Real Sociedad.
Le match était honteux quand même contre la Lazio.
Le terrain, il a plu, c'est vrai.
Oui, non, le terrain était honteux en plus. En plus, du coup, c'est plus favorable, quoi.
Sociedad, ils font nul, Guessant, ils ratent un penalty. Enfin, non, ils sont pas bons en Europa League, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Ah non, dans le jeu, je suis pas convaincu. Moi, il y a Ndombele que je trouve bon.
C'est un joueur, il aurait pu jouer tellement plus haut.
C'est du gâchis. Bon. Et après, offensivement, je suis pas convaincu. Moi, Shaw, il va jamais au bout des actions.
Boga.
Quand il a envie,
C'est un intermittent.
Laborde, on a perdu un peu Laborde.
C'était un bon joueur.
Moukoko, je le trouve pas ouf. Et vivement le retour de Mofi, parce que je vois pas qu'il. Il y en a pas un qui est plus fort que lui.
Moukoko, t'as dit ?
Ouais, je le trouve pas.
Moukoko, aussi, parce que. On parlait de crack, Moukoko. Quand il arrivait, on disait que c'était un crack, etc.
Ça n'a jamais été un show.
À 16 ans, attention, ce que Moukoko faisait.
Attention.
À 16 ans, les gens. 15 ans, il avait 15 ans.
Il avait 15 ans.
À Dortmund, quand il est rentré.
Il enchaînait des 9 buts là en jeune, et ensuite il était sur le banc.
Après, même avec les pros, il rentre en jeu, il marquait.
Une petite rentrée, etc.
Non, il rentrait, il était décisif.
Marqué, tu disais marqué ?
Oui, marqué. Si je tu peux regarder.
Enfin, en tout cas, il était intéressant.
J'en suis sûr.
Je veux bien, moi, mais s'il se retrouve en prêt à Nice, c'est qu'il y a une raison.
Oui, ah, bah, oui, c'est non, comme les Karamoko Dembélé, je sais pas si vous vous
souvenez. Quand il joue au Celtic, il était trop fort, ce petit.
Il avait 15 ans, il jouait en pro.
Le problème, je pense, c'est sa taille.
À qui?
Karamoko Dembélé, ça lui a jeté des tours.
Fait un prêt à Brest.
Messi fait pas 2 mètres.
Oui, mais Karamoko Dembélé, c'est encore plus petit que Messi en taille.
Bah, quand je vois ça, je me dis que Xavi Simon s'en sort pas trop mal.
Valbuena, Valbuena, il a fait quoi?
Bah oui.
Oui, oui.
Tu vois, c'est Dembélé en plus, quoi. Il sort, il est performant, Celtic.
Il est trop fort. Et au final, il finit en prêt à Brest.
Karamoko Dembélé, ton nom de famille, c'est Dembélé.
Non, je le défends pas. Mais il avait bien commencé, mais maintenant, il s'est perdu. Là, il est à Brest, il est en prêt. Là, il est en prêt.
Il est même plus à Brest.
Il est à Brest maintenant, il est parti.
Il doit être en Écosse, je sais pas.
Je crois qu'il est revenu en Écosse ou je sais plus trop quoi.
Des joueurs comme ça, je pense que c'était plein. Même Mounir au Barça, il y en a plein comme ça.
Ouais. On va enchaîner avec Lyon qui gagne le derby face à Saint-Etienne. Lyon 1-0. T'as quelque chose à dire?
Ils auraient pu gagner bien plus.
Franchement, Saint-Etienne.
Oh là là.
Saint-Etienne. J'ai l'impression qu'ils avaient perdu avant de commencer le match, en fait. Il y a des occasions, ils auraient pu marquer. Je crois qu'ils ont peur de Lyon, je crois.
Ah, mais c'est un complexe d'infériorité.
Ouais, il y a réellement un complexe d'infériorité parce qu'il y a 2-3 autres. Sissoko, il a une action à un moment, là.
Honnêtement, quand on voit le début de saison de Saint-Etienne et celui de Lyon.
On s'attendait
franchement, vous attendez à quoi?
Bah après, c'est sur un match et c'est un derby. Je me dis qu'il y a
Saint-Etienne, en fait, excusez-moi, pas tous en même temps. C'était au Groupama Stadium aussi, hein, mais on a vu, les Verts ont dit qu'ils les attendaient à domicile.
Mais même là, ils vont perdre.
Ils perdront, sans surprise.
On verra. Je retiens, c'est enregistré. Vous deux, vous dites qu'ils vont perdre à domicile. Attention, un derby, ça va vite. On va enchaîner avec Brest. Brest, bon, qui sont 12e. Toujours Brest, voilà, qui sont 12e, mais qui viennent de perdre contre la Lanterne Rouge. Montpellier, 3-1. Montpellier qui se relance, mais qui reste quand même la Lanterne Rouge. Mais qui revient quand même à 3 points de la zone hors relégation, même si la différence de but est de moins 20.
Tu parles de Montpellier là?
Oui, Montpellier.
Bah, comme je l'ai dit dans la réémission, moi Montpellier, pour moi.
C'est fini là.
Tout ce qu'ils ont. Après, je sais pas. On sait jamais.
Ils sont à 7 points. Attention, on a vu Lyon dans des 7 Lyon, points. S'ils gagnent un match. Non, mais attendez. Ils gagnent un match contre leur concurrent direct, je sais pas, contre Angers, Saint-Etienne, Le Havre ou Nantes. Ils sortent de la zone de relégation.
Ouais, mais
on vous parle de ça.
Avec ce qu'ils proposent depuis le début.
Oui, mais on vous parle de ça quand même. Non, mais imaginez.
Non, mais le maintien, ça va être bizarre cette année.
Tu fais une comparaison avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, ils arrivent à se renforcer à l'hiver avec un gros budget. Montpellier, ils peuvent pas le faire.
D'ailleurs, Lyon est en grand danger.
En grand danger provisoirement.
Bah, qui ont été relégués.
Ils savaient très bien comment ça va finir.
Ça va bien se finir, cette histoire. On le sait tous. Et Montpellier, depuis le début de saison, ils proposent quelque chose qui est dégueulasse. Je suis désolé. C'est mauvais. Après, là, ils ont fait une dernière victoire. J'espère peut-être que ça va les relancer. Mais ce qu'ils proposent depuis le début de saison, enfin, même depuis 2-3 saisons, j'ai envie de dire.
Rennes aussi, Rennes qui vont pas bien.
Ils ont recruté
personnellement.
Qu'ils ont recruté Sampaoli, est-ce une bonne nouvelle?
Mais c'est horrible.
Ouh là là.
Ah bon?
Ça va pas être la politique.
Ça reste de finir en classe.
Doucement, pas tous en même temps, s'il vous plaît.
En vrai, sérieusement, c'est horrible de faire ça parce que Sampaoli, en fait, c'est un coach qui. C'est un peu comme les Pascal Duprat, c'est un coach qui t'apporte pas de continuité, en fait. Qui t'apporte pas de continuité.
Ah oui, c'est comme ça que tu le vois.
En fait, mais bien sûr, parce que. Pourtant, moi, c'est un coach que j'aime bien de base. C'est un coach que j'aime bien de base. Mais quand il va arriver. Vas-y, il me fait rire.
Tu l'as quand même comparé à Pascal Duprat.
Je vous dis ça parce que c'est un coach one shot.
Moi, dès qu'on me dit Pascal Duprat, excuse-moi, je pense à Evian Thonon.
Evian Thonon Gaillard.
Ouais, Evian Thonon Gaillard.
Moi, je pense à ça tout de suite. Toujours Toulouse aussi.
Non, mais c'est un coach. C'est un coach, tu peux pas construire un projet avec lui. Séville s'est planté. Même quand il est retourné en Argentine, ça s'est planté. Même au Brésil, il est allé au Brésil.
À Mineiro.
À Mineiro, ça s'est planté. Je veux dire. T'as de l'excitation parce que Sampaoli, c'est un petit nom, on va dire, argentin, machin, etc., Coupe du Monde, etc. Mais finalement, Sampaoli, tu vas peut-être voir du jeu flamboyant au départ, mais t'auras aucune continuité. Et je pense que pour Rennes, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix.
Bah, est-ce que l'avenir nous dira sur ça, oui, Brema.
Bah après, concernant le stade Rennais, je sais pas si vous voyez un peu les matchs, mais on dirait qu'il n'y a aucune envie de jouer.
Il n'y a aucune envie.
Je pense qu'ils ont fait exprès pour qu'on vire Julien Stéphan. Moi, je pense que c'était un complot.
Ah ouais.
Non, mais il y a certains matchs, je sais pas.
Ah
si
non,
vous
non,
il
y a aucune envie.
Surtout offensivement, ça met pas un pied devant l'autre, ça marche.
Ils font pas d'efforts, ils veulent pas.
Ça fait pas d'efforts, ça défend pas.
C'est catastrophique.
C'est je vais pas les mettre dans mon top 5 de la bataille du maintien, mais...
On va enchaîner avec le Paris Saint-Germain qui ont battu Angers 4-2. Un petit mot.
Les deux buts encaissés, c'était pas nécessaire.
Ouais.
Bon. Attention, un des deux buts, la reprise de volée quand même. On peut pas la chercher. Hein.
Ah, ça c'est sûr.
Le Paris Saint-Germain, excusez-moi, le Paris Saint-Germain qui ont 6 points d'avance sur leur dauphin Monaco, qui ont 23, et Marseille qui sont à 9 points maintenant du Paris Saint-Germain. Marseille qui croyait au titre, maintenant je pense que ça commence à s'évaporer un peu. Lille qui sont au coude à coude, hein, 1 point de différence avec Marseille, et il y a Lyon qui sont là aussi avec 18 points, qui sont 5e, Nice 17 points avec Reims 17 points et Lens 17 points. En une journée en fait, tout le monde peut se retrouver sur le podium. Voilà, dans les 8 premiers, n'importe qui peut se retrouver sur le podium au bout d'une journée. Voilà, ça se tient en 3 points, ça permet beaucoup, je pense, d'excitation encore pour cette saison. Et entre Nantes, à partir du 14e jusqu'au 18e, Montpellier, il n'y a que 3 points d'écart. Là aussi, voilà, c'est pour ça que je dis que Montpellier, rien n'est fait encore. Ils jouent contre un concurrent direct, ils peuvent sortir de la zone de relégation. C'est ce qui paraît ouf quand même. Mais c'est faisable, c'est faisable. On va enchaîner hein, avec le Paris Saint-Germain bah, qui réussit à battre Angers. Mais en Ligue des Champions, ça ne va pas et ça ne va plus. On va se faire une petite pause et on revient tout de suite. Le Paris Saint-Germain qui n'y arrive plus et qui domine de bout en bout de la première à la 93e minute, mais il a fallu juste 30 secondes en plus de la 93e minute pour se faire prendre la punition que les grands mettent en tout cas en Ligue des Champions hein, quand on n'est pas réaliste. C'est ce qui arrive et là on repense tout de suite au Colissimo. Le fameux Cholismo qui n'est pas mort, non. On a vu encore le Cholismo qui continue à performer, même si c'est des petites victoires, 1-0 en championnat, 1-0 encore par-ci, par-là, des petits buts sur une erreur défensive. Et là, ils arrivent, ils battent le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 2-1. Paris Saint-Germain qui ont dominé ce match-là, mais qui n'ont pas réussi à conclure. Je veux revenir quand même, excepté de Gaulle, hein, 2,9. Quand même, un compte 0,67. Possession de balle 71-29. 4 tirs, 3 cadrés pour l'Atlético de Madrid, dont 2 buts. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est 22 tirs, 9 tirs cadrés et un seul but. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la prestation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est mental, c'est physique. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Salé? Parce que cette équipe te fait du mal depuis longtemps. Et là, je voudrais savoir qu'est-ce que toi, tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens, Salé?
Qu'est-ce que je ressens? Bah, je le dis à tous les... depuis un petit moment quand même sur ce plateau que je pense que c'est un problème tactique. Un détail tactique, pas un problème tactique, un détail tactique. Parce que le Paris Saint-Germain, à chaque match, il se procure je ne sais combien d'occasions. Personne ne peut le nier. Mais au final, il n'y a personne à la retombée, il n'y a pas de finisseur, il n'y a rien. Voilà, comme tu viens de le citer, il y a eu 22 tirs, 9 cadrés pour un but. C'est que ce n'est pas un problème de jeu, c'est pas un problème de se créer des occasions, mais plutôt un problème de finition. Et ça fait un moment que ça dure, parce que ça joue avec un faux neuf. Et je vais rajouter aussi que sur ce match, il y a Hakimi qui a eu plusieurs possibilités de pouvoir mettre un terme à ce match, faire le break, sur notamment une passe qu'il ne le fait pas. Sur un tir qu'il ne fait pas, où tu vois, il va se compliquer la vie. Et après, je remets pas en cause sa bonne performance, hein, mais il y a plusieurs décisions dans ce match qui portent préjudice au Paris Saint-Germain. Là, c'est compliqué en ce moment, franchement, c'est compliqué. Après, chaque match, ça a été pareil. Hein. Ça s'est créé des occasions, ils ont eu je ne sais combien d'occasions, mais au final, il n'y a pas de but. Et quand tu regardes bien, je crois qu'il n'y a aucun attaquant qui marque. Dans le jeu, je crois qu'on marque une ou deux fois. Bon, voilà. C'est franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai pas grand-chose à dire.
Toi, Samba?
En fait, moi, j'ai une question à poser aux supporters parisiens. En fait, vous attendez à quoi?
Non,
mais il ne met pas d'attaquant. On dit le problème, c'est, tu viens de l'évoquer, la finition. En fait, votre entraîneur, il veut pas écouter. Il est resté dans son thème.
C'est pour ça que je pointe.
Même Guardiola qui... était adepte du faux neuf, il s'est incliné. Il a pris Haaland.
Oh, excuse-moi de t'interrompre, il était adepte du faux neuf. Les gens, ils oublient de préciser, avec Messi.
Oui, mais oui, oui, non, mais je parle pas de Messi.
Pas
parce
avec
que Messi,
Marco Asensio. Non, mais oui, parce que à oui, chaque fois, les gens, ils disent ça comme si. Oui. Même au Bayern, ils jouent avec Lewandowski quand même.
Oui.
Bon, après, il gagne pas la Ligue des Champions. Non, mais okay.
je parle plus de la période quand il est arrivé à City. Je suis d'accord avec toi.
Je peux te répondre. Bon, rapide. Moi, ça fait un petit moment que je pente sur ce plateau que ce n'est pas un problème d'équipe, ce n'est pas un problème d'effectif, c'est un détail tactique.
Non, et pour moi, c'est le faux. C'est même pas de la tactique. Non, parce que la tactique, il se procure les occasions.
Non,
en fait.
Mais il faut enlever cette histoire de faux numéro 9. En fait, c'est pour ça que c'est un
toi.
Détail.
Oui,
c'est
je suis d'accord avec toi.
Tactiquement global. Mais c'est, ce détail-là, pour moi, il dérange le Paris Saint-Germain. Oui. Parce que Colomani, il a toujours pas sa chance. Il n'a toujours pas eu enchaîné les matchs. Non, il faut le donner.
Parce qu'il est
nul, Colomani. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il est pas au niveau du Paris Saint-Germain.
Quand Gonçalo Ramos va revenir, vous allez voir qu'il va le mettre numéro 9.
Ça, pour moi, égoïsement, c'est devant Colomani. Ouais. Mais pour l'instant, qu'il n'est pas là, il faut donner sa chance à Colomani parce qu'il a été titulaire qu'une seule fois. Tu ne peux pas, te baser sur. Tu peux pas dire que Colomani est nul s'il n'a pas enchaîné les matchs.
Hein. C'est là où on diverge. C'est qu'il y a des occasions. Que m'en fous, t'es un numéro 9 ou pas, tu dois les mettre. T'as Dembélé, il est devant les cages, il envoie le ballon là-bas. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Luis Enrique? T'es joueur professionnel, t'as tiré 200 fois comme ça. Non, moi, je te jure, en fait, ça m'énerve. Le gars, il est devant, il rate le ballon. Barcola, il commence à bégayer. Asensio, on sait pas ce qu'il fait. Donc, au bout d'un moment, je suis d'accord, Luis Enrique, des fois, il est relou parce que. Il devrait peut-être mettre un 9, mais quand t'as Colomwani, que tu le mets, qu'il est nul, et que t'as des joueurs devant les occasions, il rate des trucs. Moi, je suis Luis Enrique, je me dis, attends, mais je fais quoi là?
Je peux pas te laisser dire.
C'est une dinguerie quand même. Moi, tu domines le match de bout en bout, tu te procures des occasions contre Arsenal. Hakimi, il tape le poteau. Je crois qu'il tape deux fois le poteau.
C'est
même.
C'est Mendes.
Mendes, pardon,
une seule
il tape
fois.
Le poteau.
C'est des défenseurs latéraux qui vont.
Mais t'as vu le nombre d'occasions qu'il y a?
Mais c'est ce que je viens de dire. À chaque plateau, je le dis tout le temps.
Mais le problème.
C'est pas le problème de l'effectif ou de se créer des occasions, c'est la finition.
Vous vous rendez compte que le problème maintenant, c'est qu'on a espoir que les latéraux marquent pour le PSG.
Ah, ça devient compliqué. C'est un gros problème.
Oui, c'est un gros problème, mais on pense surtout parce que. Hakimi a eu pas mal d'occasions où, par moment, il n'a peut-être pas fait les bons choix. Au moment où il fait la passe à la dernière seconde, il doit peut-être tirer. Il doit peut-être tirer parce qu'il a l'occasion de tirer. Et juste avant, voilà.
Hakimi, c'est tout d'abord un défenseur latéral.
Oui, c'est un latéral. Après, c'est vrai qu'il manque beaucoup.
Il manque d'efficacité.
Moi, je pense à des latéraux comme Frimpong, Grimaldo, qui mettent leur but.
Mais ça, pour moi, c'est ça. Même Hakimi, pour moi, ça, c'est des pistons. C'est pas vraiment des arrières.
Oui, c'est des pistons, mais Hakimi a joué piston aussi. Oui, à l'Inter, il a eu l'habitude. C'est pour ça
qu'il est mal utilisé, Hakimi. Mais bon.
Et toi, Brahima, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, par rapport à ce match-là, comme vous l'avez dit, il y a un réel problème d'efficacité. Il faut qu'il mette un attaquant. Je sais que Colomwani, je pense qu'il faut lui donner sa chance, mais. Rien que quand je vois sa conduite de balle, je suis découragé en fait.
Mais attendez, sérieusement. Non, mais parce que quand je vous entends parler de Colomwani, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord, mais du tout. Colomwani est le joueur qui a marqué le plus de buts en équipe de France cette saison. Sur l'année civile. Laissez-moi terminer, laissez-moi aller au bout. Didier Deschamps lui fait confiance. Il le met titulaire et il enchaîne les bonnes performances. Mais oui, tu mets quand même Thuram.
C'est Thuram ou Colomwani?
Non, il y a Thuram, Colomwani, tu peux même mettre Nkunku en pointe.
Pour moi, tu devrais mettre Nkunku en pointe.
Ah bah, en vue des performances de Colomwani?
Mais il est mauvais, Colomwani.
En équipe de France?
Mais oui.
Non, mais je suis pas d'accord.
Il a marqué.
Mais je sais pas, tu regardes quel match, mais non, je suis pas d'accord. Non. Ah non, là, je suis absolument pas d'accord.
Si je peux terminer, on va pas dire qu'il est phénoménal, mais bon, en tout cas, si je peux.
Fais le taf.
Pour continuer, oui, il faut mettre un attaquant, quitte à mettre Colomwani, même si on sent que le coach n'est pas très fan, mais il faut mettre un attaquant.
Colomwani attire les ballons, il sait jouer les ballons de la tête.
C'est ça.
Kangingli ne sait pas le faire. Merci. Il sait être un renard de surface. Kangingli ne sait pas le faire, encore une fois.
Mais je préfère lire Asensio, par exemple. Asensio, il est transparent, je ne sais pas quoi il fait sur la pelouse.
J'étais au stade contre Arsenal, faut pas me parler de renard de surface. Franchement.
En parlant de qui?
Colomwani.
Non, mais c'est pas un renard de surface de base. C'est pas un mec qui.
C'est quelqu'un qui prend la profondeur.
C'est quelqu'un qui va quand même. Ça reste un attaquant. C'est quelqu'un qui va gêner, qui va être présent.
Même sur les appels, au niveau des buts de la tête.
Moi aussi, personnellement, j'ai un problème avec la tactique de Luis Enrique. La tactique qui consiste à faire tourner le ballon pendant 25 minutes autour de la surface.
Latéralement.
Ouais, comme le hand.
Et en fait, ensuite, pour sur un malentendu, faire une passe dans l'axe et pouvoir
marquer. Parce qu'il n'y a pas de centre, on voit pas de centre.
Même si on met Colomoigny
en cette centre.
Selon moi, je pense que même si on met Colomoigny en cette tactique-là, ça va rien produire du tout parce que c'est un attaquant qui aime prendre la profondeur, qui aime recevoir des centres. Et avec l'effectif qu'on a, Hakimi, il ne centre pas beaucoup finalement.
Mais parce qu'il ne sait pas centrer.
Il n'est pas mauvais.
Oui, bon, on l'a vu contre Dortmund notamment. Oui. Il ne sait pas centrer en fait. Et même Mendes, si vous regardez bien, il joue toujours plus reculé qu'Hakimi par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me dérange aussi parce que quand il se projette, on voit qu'il est bon. Mais je ne sais pas pourquoi, dans la tactique mise en place par Luis Enrique, on voit qu'il est toujours en retrait. Et après, par rapport à l'adversaire, l'Atlético, moi, ce que j'ai, si je peux souligner un fait, c'est leur gardien. La différence entre Yann Oblak et Donnarumma. Ouais. Sur l'action du but, on voit qu'elle est affligeante, la différence. Il fait limite il fait l'avant-dernière passe à Griezmann qu'il a mis à Correa. Correa, il frappe. Donnarumma, il se trouve un peu quand même, faut le dire.
Il se trouve, hein,
franchement. Il se trouve sur le but.
Il doit faire des arrêts comme ça. À la dernière seconde, il sait que le but ne doit pas passer.
Ouais. Donc là, juste sur cette action-là, on voit que le gardien du Paris Saint-Germain, finalement, il n'est pas si bon que ça.
Pourquoi pas donner
parce qu'il n'a pas la même relance qu'Oblak. Ouais. La relance qu'Oblak fait, et Oblak, il arrête au moins 5 ou 6 frappes. Hein. Il fait 6 arrêts décisifs.
Ouais, sur au moins 12 tirs.
Il fait une relance exceptionnelle sur Griezmann, et ça provoque un but. Donc à un moment donné aussi...
Non, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes qualités.
Moi, j'ai un problème avec le gardien du Paris Saint-Germain.
J'ai un très gros problème. Depuis ça fait deux ans.
Depuis son arrivée, j'ai un problème.
Ça fait 2-3 ans, j'ai un gros problème avec lui.
Parce que Navas, finalement, c'est le meilleur gardien.
Et je fais un petit big up à Steph. Qui l'a défendu pendant très longtemps et je lui ai toujours dit arrête de défendre Donnarumma, il n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui.
En plus, je ne sais pas si vous allez au stade, au parc de temps en temps, vous voyez les échauffements, les entraînements, son jeu au pied, il est catastrophique.
Ah, mais ça, c'est depuis le départ.
Moi, je trouve ça grave, la vérité. Ah, ouais. Et comme tu as dit, en fait, c'est la différence. Tu as un gardien clutch d'un côté qui peut te faire gagner des matchs, justement, et de l'autre côté, malheureusement. Bah, ton gardien qui te fait perdre des points en fait.
Même contre Arsenal, les deux buts, c'est lui. Même si je dis tout le temps, ça se joue à 11. Hein. Il perd pas le match seul. Mais les deux buts, il est un peu fautif.
Les buts qu'il se prend, c'est pas
même en Ligue 1, des fautes de main. C'est
compliqué.
On va enchaîner. Hein, voilà le Paris Saint-Germain qui n'y arrive toujours pas. On enchaîne avec Brest. Brest qui font plaisir. Hein, Brest qui font plaisir et qui vont s'imposer au Slavia. Brest qui sont quatrième de Ligue des Champions, de la Ligue des Champions. Hein, et oui, vous entendez bien, devant le Real Madrid, devant Manchester City, devant le Paris Saint-Germain, devant Barcelone même, non ? Oui, devant Barcelone.
Oui, oui.
Ça reste quand même magistral. Ils sont pratiquement assurés d'être barragistes au moins.
Je vous ai prévenu en début de saison. Fallait compter sur Brest. Je l'ai dit sur ce plateau. Tu étais moi. Et on m'avait pris pour un fou. J'avais dit Brest, les gars, attention.
C'est une équipe qui joue sans pression. Après, quand on joue libéré aussi, ça fait la diff. Mais après, c'est vrai que on s'y entendait pas.
On s'y entendait pas du tout. Avec tous les joueurs qu'ils ont perdus en plus.
Ouais.
Mais ils ont pas mal recruté. Hein.
Ils ont des très bons joueurs.
Il y a des bons joueurs. L'effectif, il est cohérent en tout cas.
Ah, c'est des clubs qui travaillent bien et ça se voit directement. Après, bon, forcément, ils ont un programme, enfin un calendrier plus simple que le Paris Saint-Germain, justement. Ouais. Faut le souligner. Mais ils font plaisir. Après, prochain match, Barcelone. Donc ça va être à Barcelone en plus.
Tu seras pour qui ?
La question ne se pose pas.
Ah bon, ok. Moi, je croyais qu'autour, tous pour les clubs français en Europe.
J'aime
un
club, j'aime pas plusieurs clubs. Moi, c'est un club. Mais bah oui. Mais non, sérieusement, Brest, voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est fou, plus globalement, de se dire que, même s'ils ont un calendrier compliqué, c'est fou de se dire que c'est Paris le dernier club français. Et que Lille est devant, que Brest est devant. Franchement,
Monaco sont devant.
Monaco aussi. Fou. Et gagner au Slavia Prague, parce que c'était là-bas, il me semble. C'était là-bas ou c'était. Franchement, c'est
une belle performance.
C'est compliqué.
Il
ne
faut pas oublier que les équipes françaises, elles perdent tout le temps face à ces équipes-là. Même en Europa League, on le voit, elles ne sont pas capables de battre Hoffenheim. Nice qui n'est pas capable de battre Twente. Lens qui se fait sortir face au Panathinaikos. Donc, c'est pas des matchs simples.
Oui, non, c'est pas des matchs simples. Hein. On va enchaîner avec Inter qui gagne 1-0 face à Arsenal grâce à un but de Calhanoglu sur penalty. Bayern Munich qui s'impose sur un petit score aussi face au Benfica. Barcelone qui étrille l'étoile rouge de Belgrade à Belgrade. Hein, 5-2. Atalanta qui s'impose 2-0 à Stuttgart. On peut parler aussi de Lille, hein. Lille qui ont fait 1-1 contre la Juventus à domicile. Hein. Un petit mot, quelqu'un ?
Deux gros mots même.
Oui.
Zegrova et David.
Oui.
Très... La passe de Zegrova, mais
Chevalier incroyable.
Chevalier, et d'ailleurs, on en a pas parlé, mais on était, enfin, c'est très bien qu'il ait été appelé par Didier Deschamps, Lucas Chevalier.
Même si le message n'était pas très bon, où il dit Areola est blessé, sinon il serait pas là.
Ah, pour moi, c'est pour moi, ça.
Ça entache un peu. Ça entache un peu. Même si c'est la réalité, on aurait pu juste, voilà, il est sélectionné, il fait des bonnes performances, on le voit. Il est jeune encore, il a du, voilà, je pense que tout est dans la communication, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, je vais pas rouvrir le débat, excusez-moi. On va enchaîner avec Liverpool en pleine bourre, Liverpool 4-0 contre les champions allemands Bayer Leverkusen à domicile. Liverpool en ce moment qui sont en taille patron, on va y revenir avec la première ligue juste après. Le Real Madrid qui n'y arrive toujours pas à domicile face à l'AC Milan quand même, l'AC Milan qui était en mauvaise passe et qui surprenne un peu. Qui surprend un peu tout le monde avec un Léao qui était dans ses jours. Hein, Léao, c'est une fois tous les 10 jours. Et là, c'était sa première.
Lucas Vazquez, catastrophique.
Ouais, Lucas Vazquez.
Il est blessé là, mais vivement le retour de Carvajal. Hein,
Alors que Reinders, là, le néerlandais, monstrueux.
Il est en pétard, oui. On peut enchaîner avec Monaco qui s'impose dans le Money Time face à Bologne, hein, 1-0. Monaco aussi qui se rassure après le 2 partout au Dynamo. Dortmund qui gagne face aux Stromgards avec le strict minimum 1-0. RB Leipzig qui n'y arrive pas et qui perd au Celtic 3-1. Et moi, franchement, cette performance qui m'a un peu choqué, c'est Amorim qui va arriver à Manchester United, Amorim, et qui vient de montrer à Pep Guardiola une leçon de football. Clairement, avec Gyökeres, 4-1, c'était sans bavure, ça joue au football.
Mais est-ce qu'il pourra faire la même chose avec l'effectif d'United ?
Il a dit qu'il ne pourra pas faire la même chose, parce que déjà, l'effectif d'United ne peut pas jouer aussi défensivement
C'est ça.
Ouais, mais il y a Zirkzee, ça devrait le faire.
Je l'appelle Zirkzee, moi. Oui.
Franchement, Amorim... Honnêtement, je sais pas pourquoi il a pas attendu au moins la fin de l'année. La fin de l'année, ouais, en gros, la fin
de saison.
De saison plutôt.
L'offre est passée une fois, peut-être pas deux aussi.
Ouais, ouais, c'est mais possible. Franchement, c'est honnêtement,
au vu
des performances l'année dernière et même de ce, on va dire de comment ça s'appelle, ce début de saison. Franchement, l'année prochaine, c'est sûr qu'il serait convoité par d'autres clubs.
Ouais, je pense.
Même si mais peut-être Manchester que lui, il voulait aller là-bas. Même quand il a fait le parcours là-bas, il a beaucoup... Parce que les gens comparent un peu le parcours à Cristiano Ronaldo et à lui. Et il a republié, il était super content. On dirait c'est le parcours qu'il voulait. En tout cas, il attendait United parce qu'il a eu pas mal de propositions à Morim. Même des fois, on l'entendait. C'est peut-être lui qui va reprendre la succession de Pep Guardiola à Manchester City, qui est toujours pour l'instant incertaine, mais... Il voulait vraiment aller à Manchester United en vue en plus de ce qui se passe. Je pense depuis cette année, depuis cet été, il y avait déjà des discussions. Je pense qu'ils s'étaient mis déjà d'accord depuis un certain moment.
Franchement, j'ai peur. Franchement, j'ai peur pour lui. Parce que l'effectif de United.
Je pense que de toute façon, je ne pense pas qu'il pourra faire pire qu'Eric Ten Hag. Je ne pense pas. Actuellement, j'aime beaucoup Eric Ten Hag, mais ce qu'il a fait, voilà. Et je pense que là, en revenant ici, il va redonner de la confiance à certains joueurs comme Rashford. Moi, je pense qu'il peut les relancer. Hein. Amorim, c'est un bon coach hein, et avec beaucoup de confiance. Et pourquoi pas même ramener son prodige avec lui, Gyökeres, à United en attaque, puisque la concurrence n'est pas si féroce que ça.
Manchester, le problème, c'est qu'ils ont laissé, je pense qu'ils ont laissé beaucoup trop de pouvoir à Eric Ten Hag. On voit qu'il se permettait de mettre certains joueurs sur le banc, Sancho, CR7. Il a ramené la moitié de l'effectif qu'il avait à l'Ajax, en fait.
Ils ont dit que il vient juste en tant que manager et pas en tant que head coach, juste manager.
Ah, il avait trop de pouvoir.
Oui, oui, et qu'il n'a plus son mot à dire sur les transferts.
Qui ?
Ou quoi ? Amorim. Il arrive juste là, ils ont reprogrammé juste coach, pas manager.
Ouais, ils sont traumatisés, voilà. Mais...
Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont mis en place. On va enchaîner avec le temps qui court. Qui coule très 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 vite. Hein. On a beaucoup de choses à se dire pour essayer de rattraper ces 3 semaines où on s'est pas vu, enfin du moins on s'est pas écouté. Voilà, on va enchaîner une petite virgule et ensuite on va enchaîner avec la Première Ligue ou la Liga, comme vous voulez.
Première Ligue.
Première Ligue, on va enchaîner avec la Première Ligue. Ah. Première Ligue, Manchester City enchaîne une quatrième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ça n'était plus arrivé depuis un peu plus de 20-30 ans même, je pense. En tout cas, ça fait beaucoup. Et Liverpool qui enchaîne et qui prennent 5 points d'avance sur leur dauphin. Liverpool qui enchaîne aussi bien en Ligue des Champions qu'en Première Ligue et qui ont 5 points d'avance. Arsenal qui cale encore face dans le derby londonien face à Chelsea. Quels sont vos pronos pour le titre de PL? Quelles sont vos impressions? Ibrahima, oui.
En début de saison, je voyais City, mais la blessure de Rodri, je pense que ça va leur faire très très mal. Donc là, je miserais sur Liverpool.
Et toi?
Franchement, j'aime bien les Gunners, mais je vois Liverpool. Hein.
Moi, franchement, on va dire Liverpool. Hein, parce que sur ce qu'ils démontrent depuis le début de saison, c'est plus régulier, c'est plus costaud et plus fiable que les autres concurrents.
C'est fort surtout. Et toi?
Pareil, hein, Liverpool. En plus, quand tu as Mohamed Salah qui est à un niveau comme ça, franchement, rien à dire. Donc,
Mohamed Salah. En fait Arne Slot, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup.
Il fait un gros travail.
Il fait un très gros travail. Même, en fait, un coup, Luis Diaz va être sur le banc, ça va être Gakpo et il va performer à gauche. Un coup, il va mettre Gakpo en pointe, il va mettre Luis Diaz à gauche, Luis Diaz, il va performer. Il va mettre même Salah, des fois, de repos et faire jouer le trio avec Nunez. Ça performe. Diogo Rota est blessé, mais on dirait même pas qu'il est blessé, tellement ça continue à marquer des buts et ça continue à bien jouer. Il a ramené une formule magique un peu, Arne Slot.
Pour moi, je ne trouve pas qu'il a ramené une formule magique. Je pense qu'il est plus sur la continuité de Jurgen Klopp.
Et faut Jurgen savoir Klopp que... qui manquait un peu d'inspiration ces derniers temps. Hein.
Mais juste un dernier point. Il y a des joueurs qui sont venus en cours de route. Darwin Núñez, Cody Gakpo. Et je pense que là, ils ont trouvé leur automatisme. Je pencherai plus sur ce point de vue pour ma part. Après,
Arne Slot... déployer déjà un très bon jeu au Feyenoord et là il remet en place parce que même dans le jeu en fait dès le début on voit dans le jeu ça apporte de la fraîcheur. Moi je vois en tout cas je suis Liverpool de très près, franchement je les vois jouer, moi je prends du plaisir à les voir jouer. Mais il y a des fois ils gagnaient des matchs mais c'était un peu dans le dur un peu, mais là franchement même contre Aston Villa ils perdent 1-0, ils se font peur vers la fin mais tout de suite ils savent qu'il faut mettre le 2-0, il y a 1-2 changements
après tout de suite, c'est cool. Il y a des similarités avec Jurgen Klopp, c'est un jeu de transition.
Non, bien sûr qu'il y a des similarités, on ne peut pas changer une équipe comme ça, mais, oui. mais juste avoir déjà ces similitudes, faut le faire, je pense.
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être avec Barcelone la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison, franchement.
J'aimerais bien avoir un Liverpool-Barça.
Ouais, j'y pensais tout à l'heure, ouais, et franchement moi aussi j'aimerais bien.
Je me régalerais, je pense.
Une bonne vengeance.
Non, une bonne vengeance 2.
Ah ouais, on n'oublie pas, pour les supporters barcelonais.
Ah oui, oh, j'avais complètement oublié, mais je pense pas que Barça pourront se venger, en tout cas de ce que Liverpool leur ont fait. Ça va être compliqué quand même. En tout cas, moi, franchement, déjà, avant ça, déjà, on a déjà un Liverpool-Real Madrid en Ligue des Champions. Liverpool qui sont en pleine bourre et qui vont accueillir et qui sont revanchards, triple revanchard même, on peut dire triple revanchard ou voire quadruple revanchard contre le Real Madrid et qui vont les accueillir à Anfield très bientôt et là dans une performance dans une de leurs meilleures, on va dire
phase
oui, et Real Madrid qui sont dans une moins bonne phase.
Je pense que ce match là pourra faire un nouveau chômeur du côté de Madrid. Je pense à Carlo Ancelotti. S'il prend une raclée, je suis pas sûr qu'il reste en poste.
Mmh. Ah oui,
c'est ma vision.
Ouais, c'est possible. Hein.
Parce que la défaite face à Milan,
ouais,
à la défaite face au Barça, il en prend 4. Ouais. S'il en prend ne serait-ce que juste un 2-0, ça peut commencer à devenir compliqué.
Un retour de Zizou, vous pensez?
J'y crois, moi, parce que j'ai l'impression qu'il a peur d'entraîner ailleurs. Donc...
Non, il attend l'équipe de France.
Ouais, j'y crois pas.
Non, même moi, j'y crois pas.
Enfin, même si lui veut, je pense pas qu'il entraînera la France.
Si, moi, je pense, ouais.
Alexandre, t'en penses quoi? On va pas revenir sur l'équipe de France, hein, mais il y a Didier Deschamps, même, on lui a demandé quel joueur avec lequel il a joué. Quel est le joueur le plus fort avec lequel il a joué. Il n'a pas voulu citer, or qu'on sait tous, je pense, que c'est Zinedine Zidane.
Non, mais Deschamps, il est pas prêt de laisser sa place. Hein.
Surtout que les deux, ils s'apprécient pas fortement.
Ouais, s'apprécient pas.
Bon, ça fait longtemps, ça.
Ouais, ça fait longtemps. Après, bon, Deschamps, il a joué avec des grands joueurs aussi.
Hein, Platini,
non? Pas Platini. Mais à la Juve, il a joué avec les... comment il s'appelle? Je crois qu'il y avait Edgar Davids, des trucs comme ça.
C'est jamais.
Non, mais
c'est
oui.
C'est jamais. Bah oui, non.
Et
C'est Zizou, ouais. Bon, après.
Excusez-moi, on va pas faire le débat. On revient à nos moutons, mais voilà, j'ai lancé un petit. On revient sur nos moutons, en tout cas. Liverpool qui vont accueillir le Real Madrid, mais même ça, c'est un peu LDC, mais à domicile, en tout cas, Liverpool, en tout cas, qui sont premiers avec 5 points d'avance sur Manchester City. Arsenal, qu'est-ce que vous pensez d'Arsenal ? Arsenal, éternel perdant ?
Bah, au vu du dernier match, là, franchement, j'ai pas vu la même équipe que les semaines précédentes. Hein. Parce qu'il suffisait de peu, hein. On voit le loupé de Trossard
du match. En fait, depuis plusieurs années, il suffit de peu. Il suffit de peu pour avoir le titre,
Pour apprécier cette équipe, moi je l'ai toujours dit, j'ai un problème avec le coach. Ils gagneront jamais la Première Ligue sans un vrai attaquant. Parce que Kai Havertz, ok, ouais, il marque des buts, mais c'est pas assez pour moi.
Après, je suis désolé, je vois beaucoup de supporters d'Arsenal critiquer Arteta, mais enfin, vous rappelez un peu, c'était comment avant
Je suis d'accord avec lui. Avant,
c'était vraiment dur. Hein. Là, au moins, on parle d'Arsenal. Arsenal est revenu en Ligue des Champions déjà. Arsenal peut se permettre aujourd'hui de regarder City droit dans les yeux. Il y a quelques années, c'était chaud.
Très compliqué.
Je me souviens de certains joueurs, Maitland Niles.
Je suis d'accord avec toi.
Socrates.
Maintenant, il s'est installé.
Moustafi, c'était pas simple.
Oui, mais maintenant, il s'est installé. Maintenant, on attend les supporters d'Arsenal. Ils attendent le titre. Ils attendent le titre. Mais tu peux pas gagner, et même une légende du club...
Il faut lui laisser du temps, le titre, il va le finir par l'avoir.
Une légende du club s'exprimer, Thierry Henry. Il y a besoin d'un attaquant.
Ouais, après, non, mais moi j'ai toujours...
Après, le marché des attaquants, il est très compliqué. Hein.
Il y
a Osimhen ou Gyökeres.
Ils ont les moyens. Arsenal,
Gyökeres, il ira pas Arsenal.
Non, je parle pas de Gyökeres, Osimhen. Parce que le feuilleton Osimhen, on parlait pas de Gyökeres. Gyökeres, c'était encore un joueur à suivre. Mais moi, je comprends pas.
Ouais, mais Arteta, j'ai pas l'impression qu'il soit forcément fan du joueur. Est-ce que Osimhen rentre dans son système? Je sais pas.
Il rentre facilement dans son système.
Il a l'air de se plaire avec Havertz, lui. Hein.
Il aime beaucoup Havertz.
Ouais, tous les matchs que je regarde, à chaque fois, il joue.
Ouais, je suis d'accord.
Soit en attaque, soit des fois, il va le faire jouer 10. Oui, en tout cas, il aime beaucoup qu'Havertz, il le fait jouer. Hein. Ça, je pense pas qu'il... C'est un peu comme Deschamps qui s'agrippe à certains joueurs. C'est toujours la même chose.
Hein. Non, je pense qu'il faut être patient, moi, du côté des Gunners. Bon, ça commence à faire longtemps, ok. Non, mais
honnêtement.
Mais avec le coach actuel, ça devrait le faire, je pense.
Tu joues la Ligue des Champions, tu joues le championnat. C'est avec Kai Havertz que tu vas gagner une de ces deux compétitions.
Non, attention, t'as gagné la Ligue des Champions avec Kai Havertz. Hein. Il l'a fait, Thomas Tuchel.
Ouais. Oui, mais...
C'était un braquage.
Oui, mais...
Clairement. Mais ils l'ont fait.
On parle actuellement.
Non, actuellement, je pense que ça va être très difficile.
Ouais, mais est-ce que Jésus est meilleur? Je suis pas sûr.
Non, Jésus, c'est pas un attaquant, c'est un ailier de formation. À City, il jouait sur le côté.
Après, il joue en attaque
quand même. Ouais, des fois, voilà. Mais.
Ouais, je sais pas.
Même comme je t'ai dit, le marché des neufs, il est vraiment compliqué. Tu vois, à part Osimhen, Gyökeres, des attaquants de classe mondiale, tu vois, il y en a pas énormément.
Non, c'est plus comme avant. Hein.
C'est vraiment plus comme avant, mmh. La vérité. Ouais, ils sont tous sur la pointe des.
Enfin, bah après, ils sont pris aussi.
Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui sont. C'est vrai qu'il y a de formation qui sort.
Il y en a beaucoup, ils sont pris aussi. Hein. Lewandowski, Haaland.
Je sais pas, ils peuvent faire Jonathan David, je sais pas.
Même Jonathan David, oui.
Ouais, tu vois, tu peux miser sur un David, mais bon, après.
Ou un Colomani.
Pourquoi pas?
Alors là.
Non.
On va enchaîner avec la Liga. La Liga, FC Barcelone perd à la Real Sociedad 1-0 avec un but polémique de Lewandowski, but, pas but, hors-jeu, pas hors-jeu. Selon quelques médias, en tout cas, il n'y avait pas d'hors-jeu. Et le Barça qui laisse le Real Madrid qui peuvent revenir à 3 points en cas de victoire dans leur match en retard face à Valence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la Liga dernièrement? Atlético de Madrid qui enchaîne avec des petites victoires, mais c'est compliqué.
Ah, franchement, moi, je peux en parler. Le match du Barça, franchement, la Real Sociedad a fait je sais pas si vous l'avez regardé, mais en tout cas, a fait un énorme match.
Ils auront pu mettre 2-3-0.
Non.
Si. En vue du match, si, quand même.
Ils ont mieux joué que le FC Barcelone. Après, il y a un but refusé injustement.
Et ça change le match.
Mais c'est ça. C'est que tu marques vers la 15e, 20e. Tu marques ce but, bah forcément, le match, il est totalement différent. Et c'est une défaite comme ça, c'est pas non plus inquiétant pour le FC Barcelone. Mais moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est que tu deviens un petit peu dépendant d'un joueur de 17 ans, quoi. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que le FC Barcelone n'a pas vraiment une grosse profondeur de banc parce que Ferran Torres s'est blessé, mais bon, Ferran Torres, il est, c'est pas un joueur de football. Ansu Fati, c'est compliqué quand tu vois son entrée. Ansu Fati, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile.
Et il me semble qu'il s'est blessé en plus.
Et en plus de ça, il s'est blessé à l'entraînement, ouais. Mais je veux dire, quand il est rentré face à la Real Sociedad, t'avais l'impression que le gars. C'est plus du tout le joueur qu'on a tous connu à ses débuts.
Ça se voit qu'il est plus en confiance du tout.
Dani Olmo, bah, c'est pas un ailier. Et Rafinha, s'il est au repos, bah, forcément, on a
plus. Dani Olmo aussi qui était remplaçant.
Dani Olmo était remplaçant. Il a préféré mettre Fermín López.
Que ça aussi, ça a compté. Parce que dès qu'il est rentré, Dani Olmo, ça a changé.
Après, Dani Olmo, il est en.
Et il revient en blessure.
Mais voilà, en tout cas, Alguacil, le coach de la Real Sociedad, de toute façon. On a tous suivi la saison dernière, la Real Sociedad qui avait fait notamment un très bon début de saison. C'est une équipe qui joue très très bien au football, même s'ils ont perdu des joueurs comme Mikel Merino ou Sorloth.
Kubo,
voilà, ça c'est du football.
C'est un produit pur.
Il est très 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 fort, Kubo.
Il est au Barça aussi ?
Non, il a été formé à. Il a été quand il était petit, il était à Barcelone. Mm-hmm. Ensuite, il est retourné au Japon. Mm-hmm. Puis il est revenu à Madrid. Mm-hmm. Et là, maintenant, il est à la Sociedad. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que la Liga est un peu relancée finalement.
S'ils gagnent, ils sont à 6 points, mais ils peuvent revenir à 3 points.
Voilà, donc après, bon, le Real Madrid, c'est compliqué quand même. C'est compliqué ces derniers temps. En tout cas, en termes de jeu, c'est cataclysmique. Donc voilà, à voir.
Même contre Osasuna, pour parler du Real Madrid, franchement, c'est. En fait, c'est un enchaînement d'exploits individuels, quoi. Vinicius, il met un triplé, il me semble.
Non, il y a. Avec Lunin qui lui met une balle.
Bah, c'est pas pour. Je suis obligé de reparler de Mbappé.
Bellingham.
Bellingham qui lui monte.
Va falloir qu'il aille. Je veux dire, ça va peut-être être choquant ce que je vais dire, mais va falloir que soit il aille sur le banc, soit qu'il se résigne, soit qu'il apprenne à jouer en pointe, parce qu'il ne pourra pas jouer à gauche.
Moi, je pense qu'il veut pas, jouer en attaque. Il veut pas faire cet effort. Or que moi, je pense honnêtement, la solution, ça serait que Carlo retourne à son ancien système et il mette Bellingham en faux neuf ou en attaquant pointe.
Et Mbappé où du coup?
Et Mbappé sur le banc.
Jamais, tu peux pas.
Le feras pas.
C'est ce que tu dois faire.
Attention,
mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais tu peux pas le faire.
Mais cellule de crise, il fait ça.
Mais oui, tu peux pas.
Et honnêtement, on devrait laisser un peu.
Mais Mbappé, faut qu'il
laisse la chance à Hendrik aussi un peu.
Oui, bon après.
On
parle de près du côté de Valladolid.
Pour je préfère faire Güler même. C'est pas le même poste, vraiment.
Non, c'est pas le même poste.
Mais oui, Arda Güler aussi qui pourrait jouer. Mais le retour de Brahim Diaz qui va faire du bien pour coordonner le tout. Parce
il jouera pas.
Brahim Diaz,
il y a beaucoup de blessures.
Si, avec Rodrigo qui se blesse, je pense que Brahim Diaz, il peut jouer. Je pense que dès qu'il a vu mettre Brahim Diaz, ça ramène cette petite fluidité.
Je vais revenir aussi sur quelque chose. Moi, c'est le fameux Pintus qu'on a tant vanté.
Brahim Diaz, qui a
très mis en question.
Il est mis en question parce que toutes les blessures que je vois, moi, ça m'inquiète. Militao, il est parti pour 9 mois.
C'est encore tous les grands clubs d'Europe.
Carvajal aussi, fin de saison.
Moi, je pense que c'est. Ça, moi je pense que c'est l'enchaînement et là tu peux avoir n'importe quel préparateur physique,
dans tous les
ça va pas ça va pas enchaîner. Bah tu vois bien, regarde Rodri, des joueurs qui se blessent jamais d'habitude, hein. Rodri se blesse jamais, des joueurs comme ça. Franchement là tout le monde se blesse. Carvajal double ligament.
Ouais,
c'est compliqué.
Non, mais c'est fin de saison.
Ouais, non, fin de saison, mais
en plus la manière dont il s'est blessé, c'est vraiment pas de la faute de Pintus pour le coup.
Oui, non,
Militao.
Oui, même Militao, enfin c'est vrai, c'est terrible mais
Non, moi je pense qu'il y a trop d'enchaînements.
Il va falloir recruter cet hiver en Madrid.
Ah non, ils veulent pas recruter en tout cas, je pense qu'il.
Il y a des défenseurs.
J'avais entendu de la porte.
Ça fait combien de temps qu'ils ont pas mis un billet sur la table?
Ils veulent, je sais pas, ils font les.
Ils prennent que des joueurs libres.
Ils ont refait leur stade apparemment.
Ouais, apparemment même.
Même Davis il arrive là.
Oui, il y a Davis qui arrive.
Ah, attention, son agent il a démenti.
Ah ouais.
Ouais. Son agent il a démenti.
Moi je te dis. Je l'ai dit sur ce plateau l'année dernière. Oui, moi je l'ai dit sur cette.
Tu peux venir à Barcelone.
Moi je l'ai dit à la place de Koundé.
Non, il joue à gauche.
À la place de
Baldé.
Baldé.
Un peu de concurrence à Baldé, ça fait vraiment pas de mal.
Mais tu penses que si Davis vient, il va se dire ah, je suis en concurrence. S'il vient, c'est pour jouer.
Bien sûr. Non, mais là je parlais pour Baldé. Excuse-moi, mais surtout que c'est Hansi Flick, le coach de Barcelone, et c'est l'ancien coach de Davis qui l'a lancé. C'est lui qui l'a lancé quand le Bayern était très très fort là, en 2020-2021, etc. Donc franchement, ça ne me surprendrait pas de voir Davis.
Moi, en tout cas, depuis 2023, j'annonce sur ce plateau que Davis va signer au Real Madrid en 2025.
En tout cas, ce serait toujours mieux que Ferland Mendy, parce que Ferland Mendy, franchement, il a des lacunes défensives, des fois, il a des moments d'absence. Je comprends pas.
Offensivement. Défensivement, moi, je trouve que ça va.
Techniquement, j'ai envie
de
dire.
Ouais, mais il se couvre. Vous vous souvenez du but, le premier but de Lewandowski au Classico, par exemple, c'est Ferland Mendy qui couvre.
Il a des petites absences, je trouve ça bizarre.
Bah, moi, j'ai un problème avec le recrutement du Real Madrid. C'est assez particulier. Tu laisses partir Nacho, par exemple. personne vient.
Ouais.
Il n'y a pas vraiment de jeunes qui s'imposent de la Castilla.
Fran en fait, Garcia, ils vont prendre des noms, mais il n'y a pas de cohérence.
Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, après, ils gagnent, hein, donc forcément.
Quand bah, ils voulaient prendre les Niuro.
C'est toujours.
Qui?
Les Niuro.
Les Niuro. Oh, oui, ils voulaient prendre les Niuro. Il a préféré.
Ils ont peut-être bien fait de ne pas le prendre, finalement. Ouais.
Ah, et ça n'a pas trop pour lui à Manchester United. Là. Il
bah,
a encore blessé.
Ouais, oui,
ouais,
blessé,
c'est une grosse blessure. Il fait une grosse blessure.
Oui, Manchester United qui joue un peu aux enchères. Enfin, Manchester United, non. C'était plutôt Lille qui jouait un peu aux enchères. Et du coup, le Real, on préférait ne pas rentrer.
Il aurait dû aller à Paris pour moi, les Niuro, la vérité.
Il y a Ndiga qui est
clairement. Pacho.
Il y a Ndiga qui est ciblé aussi.
Moi, j'aime beaucoup Pacho.
Ndiga, ouais. Ndiga aussi qui est censé.
Pour moi, Pacho, il ne bouge pas. Pacho, il est là, il ne bouge pas. Pacho, il ne bouge pas au PSG.
Non, Pacho, trop fort.
En tout cas, on parlait de Gyökeres, mais Paris, bon, Luis Enrique n'en veut pas, mais s'il y a bien un joueur sur lequel Paris doit y aller à 100%, c'est Gyökeres.
Tu veux encore le Moigny ou Ramos, hein, alors?
Bah oui, mais oh,
sans aucun souci. Ça vaut le coup. Si, enfin, après, il faut miser. Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas miser, mais.
Moi, je sais pas.
T'es obligé de miser. Tu ne marques pas de but. Tu as besoin d'un buteur. Pourquoi tu veux réfléchir?
Bah, s'il vient, il ne met pas de but, on fait comment?
C'est un investissement.
Pour moi, c'est un pari.
Moi, j'attends le retour de
Gyökeres. Non, devant le but, il y a des trucs qui ne montent pas.
Ouais. Ouais, non.
Ah là là.
Gyökeres, vraiment.
Ça reste à voir.
C'est un joueur en confiance, c'est
écoute,
vrai.
Je te fais une comparaison. Un joueur qui était dans le même championnat, qui était devant le but, qui.
Darwin Núñez.
Merci.
Ou à Benfica.
Ouais, bah, Darwin Núñez.
Terrible.
Même en Ligue des Champions.
Personne parlait.
Liverpool, bah. Ouais, c'est pour ça que
méchant.
Liverpool ont décidé de.
Très méchant.
Bah, il est pas si nul que ça.
Non, mais à Benfica, devant le but. Si, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'attaquants qui pouvaient parler avec lui.
Oui. Mais là, il commence à revenir. Aussi, bien.
Après, à titre comparatif, je préfère attaquer quelqu'un qui en met 20 dans le championnat portugais que 20 dans le championnat allemand. Ça me rassure plus.
Comment?
Excusez-moi, mais.
Ah bon?
Ah oui.
Lewandowski.
Allemand, c'est bizarre.
Non, mais entre portugais et allemand.
Excusez-moi, Lewandowski. En Ligue 1, c'était un joueur moyen.
Et
Kitike,
il est très très fort en ce moment.
Excusez-moi, Lewandowski, j'ai pas compris.
Lewandowski, il est empilé, il arrive en.
Marmouche qui met des coups francs. Marmouche qui met des coups francs à tout va.
Attention, je suis pas en train de dire que c'est étiquité. Des mauvais joueurs. Hein.
Non, étiquité, tu peux. Non. Moi, je pense que juste, on n'aura pas laissé le temps. Étiquité à Reims.
Non, mais fallait qu'il aille à Newcastle déjà. Après, je sais même pas pourquoi il est venu au PSG.
Colomani, t'en mets combien
qu'il allait pas jouer.
Combien de buts avant d'arriver au Paris Saint-Germain?
Mais là, t'as vu ce qu'il fait là? Il arrive même pas à faire une course avec la balle.
Non, pour moi, c'est pas le championnat.
C'est le contexte.
C'est plus le joueur aussi.
C'est le joueur, le contexte, l'environnement.
Attention, Lewandowski.
On va faire très rapide, on va se faire une petite virgule avant de revenir et évoquer le Ballon d'Or. Très rapidement, avec un 30 secondes chrono. On va revenir avec un 30 secondes chrono sur le Ballon d'Or. Rodri, lauréat du Ballon d'Or, contre toute attente, mérité ou scandaleux? Vos avis, tout de suite. Rodri, qui a été lauréat du Ballon d'Or, contre toute attente, hein. Rodri, qui le voyait, qui l'eût cru, Rodri, qui a été Ballon d'Or 2024, Vinicius sûrement déçu, pour vous, c'est un scandale ou c'est mérité, Ibrahima?
Bah, comme il y a eu un peu à chaud, j'aurais tout de suite crié que c'était un scandale. Maintenant, il y a un peu de temps qui est passé, bon bah, ça reste un... Ouais, on va le dire, ça reste un scandale quand même. Parce que franchement, si Rodri avait eu la saison où Manchester City gagne la Ligue des Champions, honnêtement, ça ne m'aurait absolument pas choqué. Je trouvais même qu'il le méritait cette année-là. Maintenant, pour après, tout ce que représente le Ballon d'Or aussi, c'est vrai que le donner à Vinicius aurait eu un peu plus de sens, à mon avis. Mais Rodri, c'est pas un mauvais joueur. Et...
Mais la question
quelque
n'est
part,
pas...
ça fait...
Excuse-moi, Ibrahima. Mais la question n'est pas est-ce que c'est un bon joueur, est-ce que ça n'est pas un bon joueur. La question c'est, sur cette saison, est-ce que il méritait, quel joueur mérite le Ballon d'Or? Parce que même quand j'entends un Ballon d'Or au rabais, un truc, non. Ça n'existe pas un Ballon d'Or au rabais. Excusez-moi, laissez-moi aller au bout. Un Ballon d'Or au rabais, ça n'existe pas. C'est le joueur qui a été au-dessus du lot de toute la saison comparé à tous les autres joueurs.
Non, mais c'est sûr.
Je comprends pas. C'est clair.
Donc pour toi, c'est Vinicius qui a été au-dessus du lot toute la saison.
Pour moi, c'est Bellingham.
Pour moi aussi. Sur une partie de la saison.
Non, sur toute la saison, c'est Bellingham qui a été au-dessus. Toute la saison. En tout cas, majoritairement, non, c'est faux.
L'euro de Bellingham, il est
six mois.
Comment il est quoi?
Il est clownesque.
Okay, il est clownesque.
Il a mis sa, oh, dur,
il a mis sa retournette.
Il est clownesque.
Il a mis sa retournette.
Ah donc il a mis sa retournette. Il a sauvé l'Angleterre et il les a ramenés. Et il les a ramenés en finale.
Non,
phase de poule. Non, excuse-moi, laisse-moi aller. Phase de poule. Le seul match où l'Angleterre gagne, c'est sur un but de Bellingham. Une tête de Bellingham.
Okay.
1-0, c'est okay. Le seul match qu'il gagne okay, en phase de poule et qui les permet de
gagner.
Mais même dans le jeu, mais arrêtez. Mais non, je ne suis pas d'accord. Non, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. En fait, vous attendez Bellingham à même pas à un niveau. Vous l'attendez à ce qu'il marque des buts. Non. Bah si, parce qu'en fait, il vous a habitué. Parce que quand vous dites 6 mois, c'est que les 6 premiers mois, il marquait des buts. Mais à ce moment-là, il jouait faux neuf. Et après, il est redescendu plus bas. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. En regardant les matchs du Real Madrid, Bellingham, que ce soit les récupérations de balles, les ballons qu'il donne, mais il faut le voir jouer. Il faut le voir jouer, Bellingham. Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord du tout. On va enchaîner. Comme ça, tu auras tes 30 secondes. S'il te plaît, Jay. 30 secondes, Samba, c'est parti. Ballon d'or, scandale ou non?
Scandale.
Scandale.
Pas Bellingham. Pour moi, pas Bellingham, pas Vinicius. Carvajal. Terminé. Carvajal qui gagne tous les titres, Carvajal qui est décisif en finale de Ligue des Champions, Carvajal qui durant l'Euro fait partie des joueurs espagnols qui sont au rendez-vous, qui fait un parcours, Carvajal. Taille patron.
Ok, merci.
Merci, au revoir.
Merci. On va enchaîner. Hein. Alexandre, c'est parti pour le 30 secondes.
Ah, franchement, beaucoup de choses à dire en 30 secondes, mais c'est pas un scandale du tout. C'est pas un scandale. Après, Vinicius l'aurait peut-être... Enfin, il le méritait, mais comme Rodri le méritait aussi en fait. Vinicius, il y a un problème avec Vinicius, c'est qu'il a fait une Copa América qui est catastrophique.
Oui.
C'est qu'il a marqué 15 buts, même pas 15 buts en championnat. C'est que ça en Ligue des Champions, c'est Rodrigo qui a été plus clutch que lui. Donc au bout d'un moment, en fait, Vinicius, on peut remettre en question beaucoup de choses. Et en plus, il y a des critères, je vous rappelle, au Ballon d'Or. On peut remettre en question ce que vous voulez, les journalistes qui ont voté, mais il y a des critères. Et en termes de fair play, Vinicius, il remplit pas du tout les critères. Donc Rodri, c'est pas un scandale qu'il ait eu. Et Carvajal, je suis d'accord.
On va enchaîner, Salson.
Pour moi, c'est un scandale. Hein. Un scandale, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un joueur du Real qui doit la prendre cette saison. En vue de ce qu'ils ont proposé surtout le long de la saison. Et moi, j'aurais plutôt une préférence sur Bellingham. Pour ce qu'il a proposé, pour toutes les fois où il a sauvé le Real Madrid. Et ce qu'il a...
Il a après, sauvé l'Angleterre aussi.
Il a sauvé aussi l'Angleterre, mais c'est difficile aussi de rebondir, d'aller dans... Après, c'est chacun son avis, les gars.
Pour moi, c'est
Bellingham. Pour moi, c'est Bellingham.
Tu peux pas dire qu'il a sauvé l'Angleterre. Oui, Ils n'ont pas gagné l'Euro.
Il a fait une passe décisive en finale de l'Euro.
Une passe décisive. Je suis désolé. Non. Pour moi, je trouve pas que c'est une passe décisive. C'est Cole Palmer qui prend le ballon, bien sûr. Il met son enveloppé.
Arrêtez, les gars. Il lui met une passe décisive, mais.
Et Carvajal, il se retrouve pas devant le gardien.
Il prend la décision du Real.
Pour moi, c'est pas décisif.
Je suis
désolé.
Tu regardes beaucoup les matchs du Real, mais t'as vu la saison de Carvajal. En plus de ça, il gagne l'Euro en taille.
Joueur de l'ombre,
bien évidemment.
Carvajal.
Mais même, en fait, moi, je
marque en finale.
Excusez-moi. Mais attendez, Manchester City, ils sont sortis en 8e de finale. Ou quart de finale. Quart de finale, Ligue des Champions. 8e ou quart de finale?
Oui, 8e.
Huitième. Il me semble que c'est sorti en 8e.
C'est quart. Ouais, mais c'est
Rodri, meilleur joueur de l'Euro.
8e.
Mais Rodri, il impacte son équipe comme très peu de joueurs impactent son équipe. La preuve, le gars, il est blessé.
Il n'y a pas de souci. Mais
quand il n'est pas là...
Moi, je te dis juste qu'avec l'Espagne, moi, ce qui me tapait plus dans l'œil, c'était Nico Williams à gauche,
Fabien
à
Ruiz,
droite, Lamine Yamal.
Parce que tu vois...
Et Fabien Ruiz aussi, Fabien Ruiz, au milieu de terrain. Et Dani Olmo, même. Dani Olmo. Pour moi, c'est ces joueurs-là vraiment qui m'ont...
Parce que tu vois les buts.
Non, je vois pas les buts. Dani Olmo, il marque pas des buts. Il a pas marqué, il a pas beaucoup
l'Euro,
marqué.
Il était trop fort, Daniel.
Même dans le jeu, excuse-moi, pour moi, Rodri, son année n'était pas là. Son année était l'année d'avant où il marque en finale de Champions League. Oui, il fait la boucle. Pour moi, il boucle le tout en finale de Ligue des Champions.
Après, faut pas oublier que le foot, ça reste quand même du spectacle, qu'on le veuille ou non. Ça reste un divertissement.
Ah oui.
Certes, c'est un sport, mais quand aujourd'hui quelqu'un va au stade pour voir des dribbles et des buts, pour voir
tu vas pas au stade pour voir Rodrigo jouer,
même si
pour voir Rodri jouer,
c'est une insulte.
Excusez-moi,
les couleurs ça ne se discute pas.
Il y a des
Excusez-moi. On arrive à la fin.
Non,
excusez-moi, on arrive à la fin. Merci en tout cas d'avoir débattu et je pense que ce débat va se continuer en off et même vous, nos chers auditeurs et auditrices, vous pouvez continuer à débattre entre vous de ce que les chroniqueurs pensent et on reviendra sur tout ça. Merci Jason à la technique, merci à Samba, merci à Salson, merci à Ibrahima, merci à Alexandre et on se dit à très bientôt et bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Big up.